Notre cours, donc il me semble qu'on est le troisième cours sur la septième lettre, une lettre très intéressante, dans laquelle on a développé la notion de klal et de prat. Je reprends rapidement. D'accord, donc là je reprends mon index. Donc on avait développé, alors c'est la page 222. Voilà. Je vais reprendre juste en bas de la page 222. Donc, on a expliqué dans cette lettre la question de Ashreinu Matov Chelkenu Umanaim Goraleinu. Tous les matins, on le dit dans la tefila, dit que nous sommes heureux. Matov Chelkenu Umanaim Goraleinu. Combien notre part est bonne et combien notre sort est agréable. Donc, on a la notion de Chelek et la notion de Goral. C'est ce qu'on a expliqué ça dans le cours il y a 2 semaines. Je rappelle rapidement. On a dit Chelek, c'est quand on va prendre, par exemple, des sushis qui est devant moi. Et on va les partager de manière équitable. Chacun va recevoir sa part. Chélek, c'est une part. Ça, c'est Chélek. Goral, c'est un tirage au sort. Un tirage au sort, c'est forcément quelque chose qui n'est pas forcément logique. Et en vérité, comme on l'a expliqué il y a 2 semaines, qu'en vérité, quand on dit qu'il y a un Goral pour nous, c'est pas simplement un hasard. On considère qu'on s'en remet en vérité à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Pourim, on tourne beaucoup autour du Goral. Pourim. Pour, le mot pour veut dire tirage au sort. Ce qu'on avait expliqué. D'accord ? Pour nous dire que Aman, il s'en est remis à des forces de l'au-delà, et nous aussi, on s'en est remis à des forces de l'au-delà. C'est pour ça qu'on appelle ça Pourim, c'est le Goral. Bon. Alors, pour expliquer un peu mieux ce terme de Chélek et Goral, quelle est la différence finalement entre ce qui est notre part et ce qui est notre sort, et comment on dit à Kadosh Baruch Hu que déjà, on te remercie à Kadosh Baruch Hu, que parmi toutes les nations, tu nous as donné une part, vraiment une part de laquelle on est contente. Et encore plus que ça, on dit Goraleinu. C'est quoi Goraleinu? Ça veut dire que ce que tu nous as donné à Kadosh Baruch Hu, en vérité, on ne le méritait même pas. A priori, on ne le méritait même pas. Il y a une notion ici que Kadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose de l'au-delà, quelque chose qui n'est pas logique. Bon. Alors, pour expliquer ça, cette notion de différence entre Chélek et Goral, qu'on reviendra à Bezrat Hashem plus tard dans la suite de cette lettre, il expliquait longuement la différence qu'il y a entre le Klal et le Prat. Alors, on s'est arrêté sur ça, c'était le thème du cours la semaine dernière. Le thème du Klal et du Prat. On a expliqué comme ça. C'est toujours la grande question, à savoir, est-ce qu'il faut donner la place au klal, ça veut dire à la généralité, ou est-ce qu'il faut donner la place, tu étais là ce moment-là, Ariel ? Non. Ou est-ce qu'il faut donner la place au prat ? Au prat, ça veut dire à l'individu. Et en fait, les deux notions se contredisent, en général. C'est-à-dire que quand tu donnes la place au klal, bah, tu dois avoir le même régime pour tout le monde. Hein, je parle de politique, mais bon, ça veut dire que tu dois avoir le même régime pour tout le monde, c'est égalité. Une devise pour tout le monde, égalité. Ça, c'est le klal. Quand tu dis le prat, au contraire. Dans le prat, on te dit qu'on doit donner la possibilité et la chance à chacun de se développer. Le problème, c'est que quand tu mets les deux dans autour de la même table, ça ne marche pas. C'est l'opposition. Parce que c'est exactement l'opposition. Parce que le klal, il te dit, tout le monde doit avoir la même règle. Le prat te dit, non. Le prat te dit, c'est chacun qui doit développer sa règle. Et donc, c'est deux notions qu'on retrouve dans le monde autour de nous. Donc on a des civilisations qui, même dans le même pays, vous avez des gens qui suivent plus la notion du klal, d'autres qui suivent plus la notion de prat. On a donné plusieurs exemples, je vais vous redonner juste un seul exemple. Par exemple, dans une famille, tu as des gens qui vont dire, nous, dans notre famille, on est plutôt klal. Klal, ça veut dire que le papa, il donne les règles, voilà comment on doit se comporter dans la famille, et tous les enfants doivent se comporter de la même manière. Point à la ligne, c'est tout. D'un autre côté, non, c'est pas dictature, c'est que c'est comme ça, c'est la notion du klal, c'est qu'on doit avoir une devise qui marche pour tout le monde. Et ça marche. Et ça marche, hein. Il y a plein de civilisations qui tournent comme ça et qui tournent très très bien. D'accord? Ça, c'est le klal. Le prat, c'est pile le contraire. C'est une famille dans laquelle le père, il va dire, dans notre famille, chacun, il va se développer comme il entend. Et donc, du coup, un, il va se lever très tôt, l'autre, il va dormir très tard, un, il va manger à 5h l'après-midi, l'autre, il va manger à 2h du matin, et vas-y, et c'est la fête. D'accord ? Parce que chacun il vit, il se construit comme son prêtre. Et on a aussi exactement le libéralisme. Et ça aussi, on a beaucoup de familles ou d'entités qui tournent comme ça, et ça tourne très bien. La question qu'on s'est posée la semaine dernière, c'est comment la Torah voit la chose ? Qu'est-ce que la Torah pense de tout ça ? Et là, on a vu encore une fois comment la force de la Torah, c'est que la Torah nous a trouvé un juste milieu. C'est quoi le juste milieu ? On l'a dit, c'est très simple. Voilà, Bajgara Pratit, on vient de terminer ce Shabbat dernier, on vient de terminer l'étude du Rambam, on a recommencé le cycle du Rambam. Et le Rambam, donc, il compte combien de mitzvot ? 613 mitzvot. Donc on a expliqué la semaine dernière, on a dit que finalement, quand on voit le concept, on te dit qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, pas une, 613. Donc déjà, ça veut dire qu'on a donné des principes. 613 mitzvot qui doivent correspondre à tout le monde. Et comme on a expliqué, ça correspond aux membres, ça correspond à tout. Et que c'est un chiffre précis, 613. Mais d'un autre côté, quand tu vas ouvrir une Gemara, quand tu vas ouvrir un Shulchan Aruch, quand tu vas ouvrir les détails, tu vas voir qu'en vérité, à la base, il y avait 613. Mais de ces 613, on a fait une multitude de détails. Comme il a expliqué la semaine dernière, il avait un terme très particulier. Il a dit « Enketz v'tachlit », sans fin et sans limite. On sait que chaque fois qu'on étudie l'halakha, ça m'arrive plusieurs fois, tu peux réétudier le même livre, la même page, la même halakha, et tu redécouvres une nouvelle facette. Pourtant, c'est la même halakha. Comment c'est possible? Alors, c'est ce qu'il a expliqué. Il a dit qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il a trouvé le juste milieu entre les deux. Kadosh Baruch Hu, il a dit, nous, on a le klal. D'abord, on a le klal, ça veut dire qu'on a un principe. On a 613 mitzvot qui sont les mêmes pour tout le monde. Et si une personne va dire, écoute, moi, le Shabbat, pas pour moi. On dit, non, ça marche pas comme ça. On a 613 mitzvot, bien sûr, quand elles sont applicables. Par exemple, il y a une mitzvah qui dit, quand tu divorces, voilà comment tu dois divorcer. Ça ne veut pas dire que tu dois divorcer. Ça veut dire que, mais en tout cas, quand elles sont applicables, quand, d'accord?
Il y a une application pour ça.
Voilà. Donc, ça veut dire, si tu veux divorcer, voilà comment tu dois le faire. Ça veut dire que la Torah te donne des règles, un klal, des généralités. Mais la force de la Torah, c'est que dans ce klal, dans cette généralité, la Torah te dit, ok, une fois que tu as suivi les 613 grandes lignes, dans ces 613 grandes lignes, on te donne ta marge. On te donne ta possibilité de le développer comme tu l'entends, de l'expliquer comme tu l'entends, de le comprendre comme tu l'entends. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Et ça, en vérité, c'est extraordinaire, parce qu'avec ça, on comprend hein, toutes les nuances qu'on a dans la Gemara, toutes les nuances qu'on a dans Shulchan Aruch, toutes les machloquettes et tous les points de vue. On comprend comment, en vérité, comment d'un côté, on fait tous partie d'un même peuple, et d'un autre côté, on a expliqué qu'on peut avoir 10 personnes sur la même table qui vont correspondre à 10 avis. Pourquoi?
Mais ça rejoint, ça rejoint un dénominateur commun.
C'est, voilà. C'est-à-dire que ça reste un dénominateur commun. Hein. D'accord? Ça reste le klal. Tout le monde est parti des mêmes bases. Mais après, une fois qu'on est parti dans les mêmes bases, alors on dit bon, maintenant, à chacun va donner une marge. Alors, on va parler, parce que ma femme m'a dit, ils ont fait ça la dernière fois, hein, parce que ça m'est venu à la tête après. Ils ont fait ça la dernière fois pour enlever la Vémalka des jeunes filles. Elle m'a parlé d'une. Il y a un truc qui s'appelle Masterchef. Ah, ça m'a marqué, ça. Qu'est-ce qui m'a marqué? Tu entends? Masterchef. Alors, c'est quoi Masterchef? On m'a expliqué, j'ai trouvé le concept passionnant parce que ça me permet de comprendre beaucoup mieux qu'est-ce que ça veut dire ici.
On donne la même chose.
Donc, quoi, le rabbi l'a dit, de tout, on doit tirer un enseignement. C'est quoi Masterchef? Enfin, vous me direz si je me trompe, hein, de ce qu'on m'a expliqué. Oui, voilà. On donne à chacun ce qu'ils ont fait pour les jeunes filles. Ils ont fait ça avec les mamans et tout, c'était magnifique, c'était super. C'était il y a un mois. Pour les petites filles entre 8 à 13 ans. Alors, c'est quoi la notion de Masterchef? Vous me direz si je me trompe. C'est qu'on donne, on fait des équipes, je crois, des équipes ou des personnes, je ne sais pas comment ça marche.
En fait, il y a deux parties. Il y a deux équipes dans un premier temps, une bleue, une rouge qui va s'opposer l'une à l'autre. Et chaque équipe doit préparer exactement
voilà.
Le même plat avec les mêmes ingrédients.
Alors, on va donner les mêmes ingrédients à tout le monde, c'est ça la force. Oui. On va donner les mêmes ingrédients.
Mais ils ont un modèle.
C'est ça, hein?
Oui, mais
ils ont
un modèle. Hein.
On va donner les mêmes ingrédients. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça me permet de comprendre la notion de klal et de vrat de manière extraordinaire. On va donner à chacun les mêmes ingrédients. On va te dire, voilà, les ingrédients, tu n'as pas le droit ni d'enlever ni de rajouter. De utiliser tous les ingrédients qu'on te donne.
Ah oui, tu
l'as. Si quelqu'un il va dire, bah, moi, je me débrouille avec 30. Non, on t'a donné 10, il faut utiliser les 10. D'accord. Mais alors maintenant, où est ma particularité? Où est mon innovation? C'est qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de ces ingrédients? C'est exactement la même chose avec klal et vrat. Mâche la même chose. À Kadosh Baruch Hu, je te donne 613 mitzvot. Like. D'accord? Masterchef, c'est le chef, tu dis voilà. Like. 613 mitzvot. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas les utiliser? Comment tu vas les marier? Quelle place tu vas donner à lui? Quelle place tu vas donner à l'autre? Ça, c'est ton boulot.
Comment tu vas doser?
D'accord? Comment tu vas doser? Et après, il y a un jury. C'est ça? Un jury après. Voilà. Après, il y a un jury.
Mais ils ont un modèle. Hein.
Ils ont un modèle quand même.
Jury, bon, tu as plusieurs grands chefs.
C'est un bon exemple, non? Ma mâche ça.
Oui, c'est ça. Il y en a un qui te dit voilà, je veux que vous fassiez ça et ça comme ça. Et il amène donc la production du grand chef. Et voilà le modèle. Et maintenant, il doit se rapprocher le plus.
Voilà, bon, d'accord, c'est encore autre chose. Voilà, donc je me suis. J'ai pensé que cette notion, d'accord? Moi, ça, je veux pas cautionner à la télé, hein? Cette notion, ça nous permet de comprendre la notion de klal et de vrat. Parfaitement. Quand on te donne des ingrédients, tout le monde a les mêmes ingrédients. Pas le droit d'avoir un ingrédient en moins, un ingrédient en plus, mais chacun, avec ça, il va développer. Alors, juste parce que.
En chimie, c'est pareil. C'est-à-dire, on peut avoir une formulation avec un certain nombre d'ingrédients. Et tomber sur des choses qui sont...
Exactement, voilà. Alors, on a expliqué la semaine dernière Donc rapidement, on a expliqué la semaine dernière que cette notion de klal et de prat, donc du mariage entre le klal et le prat, on l'a retrouvée dans beaucoup de choses. On l'a retrouvée également dans, donc on l'a retrouvée déjà dans la halakha, d'accord. On l'a retrouvée également après dans les neshamot, ce qu'on a développé la semaine dernière. Dans les neshamot, on a dit qu'en vérité, à la base, il y a eu une neshama, la neshama d'Adam Harishon. Cette neshama, on a expliqué la semaine dernière, elle s'est développée en combien ? Elle s'est développée d'abord en 613 branches. De ces 613 branches, on est arrivé à combien de neshamot mères, si on peut appeler ça comme ça ?
600 000.
C'est tout. Alors qu'est-ce qui fait après la différence ? C'est-à-dire que c'est possible que tous autour de la même table, on vient tous peut-être de la même neshama des 600 000 qui venait d'une des 613, qui venait de la neshama d'Adam Harishon. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre chacun ? C'est le dosage. C'est combien chacun va doser. Combien chacun va doser, comment chacun va utiliser, on va utiliser notre neshama. Donc on a retrouvé cette notion de klal, cette notion de klal et de prat. Bonsoir. Alors maintenant, on continue ici. On va reprendre tout de suite à Yaakov Avinu. Donc on est à la page 222. On a fait un petit rappel. Masterchef, on nous dit. Hein. Voilà. Ah, t'as raté, on a fait Masterchef.
La notion de klal et de prat, celle du klal, c'est celle qui se réfère au principe d'égalité. Et le principe du prat, c'est celle qui se réfère au principe d'équité.
D'équité, oui.
Chacun a la
même
chance de pouvoir.
Ah oui, d'accord, d'équité pour dire de la chance. D'accord, j'ai compris.
Oui, c'est exactement ça.
Bah, c'est un problème qu'on a, c'est un problème moderne, hein, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Alors maintenant, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière. Hein, et on a commencé à parler de Yaakov Avinu. Voilà, on va développer. Alors, tiens.
Ah, parce que j'arrive pas à voir le petit.
Je sais pas si tu vas débrouiller. C'est Gerata Kodesh ? Oui, c'est bon. Oui, c'est Gerata Kodesh.
Je sais pas qui il est celui-là.
Bah, tu prends, c'est. Voilà. C'est à moi.
Si tu prends des lunettes, ça va venir.
Ok. Alors, je continue. Il développe. Il dit maintenant. Donc, on a expliqué comment c'était comme ça dans la Neshama. On a donné plusieurs exemples. On a donné des exemples de Tanaïm, de Amoraïm. Ceux qui veulent, ils peuvent réécouter le shiur la semaine dernière. C'est un shiur très intéressant. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera aussi intéressant. Alors, Ve'iné. On va prendre page 222, 4 lignes avant la fin de la page. On va retrouver maintenant encore cette notion de klal et de prat. On va passer maintenant un peu plus loin, on va essayer de tirer un enseignement pour nous, en rapport avec Purim Bezrat Hashem. Veine. Choufre de Yaakov, mais en choufre d'Adam Arishon. C'est écrit dans le Zohar, que c'est basé sur le Gemara, que la beauté de Yaakov, on a dit la semaine dernière, on s'est arrêté sur cette notion-là, elle ressemble à la beauté de Adam Arishon. Alors on a dit, ça veut dire quoi que la beauté, elle ressemble? D'abord, physiquement, ils se ressemblaient, à s'y méprendre. D'accord? Physiquement, on nous dit qu'ils se ressemblaient. Mais pour nous, qu'est-ce que ça nous change? Non. Quand on dit qu'ils se ressemblaient, c'est pas seulement qu'ils se ressemblaient physiquement, c'est qu'ils se ressemblaient spirituellement. Pourquoi? On a expliqué chez Tiken Chet, Adam Harishon. Numéro 1, parce que Yaakov, Avinu, c'est lui qui a réparé la faute de Adam Harishon. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a dit qu'Adam Harishon, il a fauté avec quoi? Il a fauté avec le serpent. D'accord? Le serpent, il a fauté comment? À part la ruse. Comment Yaakov Avinu, il a pris les brachot de son frère?
Par la ruse.
Par la ruse. Ça devait passer par la ruse parce que c'était le tikkun du chet de la faute d'Adam Harishon. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, le point numéro 2. Ça, c'est le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Faïta nishmato gamken chloula mikol neshamot chez Israël. Quand on dit que Yaakov Avinu ressemblait à Adam Harishon, ça veut dire d'abord que Yaakov Avinu est venu pour réparer la faute d'Adam Harishon, particulièrement. Mais ça veut dire aussi qu'il avait les mêmes caractéristiques que son ancêtre Adam. Et que de la même manière que Adam Harishon, sa neshama, on a expliqué tout à l'heure, était une neshama mère en vérité. Donc on a la neshama mère, c'est Adam Harishon. Lui, il a donné naissance, on a dit à combien ? À 613 neshamot. Et de 613 neshamot, on a eu 600 000. Et de 600 000, c'est nous qu'on est là aujourd'hui. Et donc Yaakov Avinu nous représente quoi ? Yaakov Avinu nous représente la première neshama mère. Et bien on dit que ça, c'est Adam Harishon. Et on dit que Yaakov Avinu, lui aussi, il avait une neshama mère comme ça. Une neshama qui était à la base. Mais olam ve'ad olam. C'était une neshama qui était, ça c'est des termes de la Kabbalah, mer olam ve'ad olam, ça veut dire qu'il pouvait aller d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que normalement, nos neshamot à nous sont cloisonnés à une certaine réalité. C'est-à-dire que par ma neshama, elle correspond à la vie Paris 13e. Voilà, ma neshama, elle correspond à ici. D'accord ? Ma neshama correspond ici, pas ailleurs. Donc je peux pas aller ailleurs, c'est ici ma neshama. Mais il y a des neshamot klaliot, des neshamot générales, comme les neshamot des grands tzadigim, que c'est des neshamot passe-partout. C'est-à-dire partout où tu le mets, il est à sa place. Parce que c'est une neshama mère. Et la neshama mère, partout où tu la mets, elle est à sa place. Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov Avinu, il était Vaya Merkava le Torah shel Mala shinikret beshem Adam. Yaakov Avinu était un véhicule pour la divinité. D'accord ? On va expliquer ce que ça veut dire. Donc, il était un véhicule à la divinité. Shinikret beshem Adam, qui la Torah est appelée par le terme Adam. D'accord ? Alors d'abord, c'est quoi Adam ? Contenez le terme Adam. Ça veut dire quoi Adam ? Adam, c'est un homme. Vous savez qu'il y a plusieurs manières d'appeler Adam. On peut appeler Adam, Ish, Enosh, Gever. Il y a quatre termes pour appeler un homme. Alors qu'est-ce que veut dire le terme Adam ? Pourquoi Adam Arishon on l'appelle Adam ? Pourquoi on l'appelle pas Ish ? Parce que c'est expliqué dans le Zohar que Adam, ça veut dire... Non, ça c'est la raison primaire. On dit Adam parce qu'il est venu de la terre. Ouais. Le Zohar il dit autre chose. Il dit Adam, dans le mot Adam, il y a le mot Adamé. Adamé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je vais ressembler. Adam, dans le mot domé, d'accord ? C'est la même racine. Que Adam, ça veut dire Adamé l'Alion. Adam, c'est l'homme quand il cherche à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Alors il explique après, ça s'est expliqué dans Ayom Yom, il dit qu'on a en fait les quatre catégories d'hommes, quatre catégories qu'on a dit ici, Adam, Ish, Enosh, Gever, correspondent à la manière comme un homme va se comporter. D'accord ? Et donc la dernière catégorie, le Gever, c'est celui qui va être plutôt dans le matériel. Adam, c'est pile le contraire. C'est celui qui va chercher constamment à ressembler, la Elyon, à ressembler à ce qui est au-dessus de lui. Gever. Adam, c'est le terme le plus... Et d'ailleurs, même en hébreu moderne, d'accord, quand on dit Adam, c'est un terme qu'on ne dit pas sur n'importe qui. Adam, c'est un monsieur de grande prestance. Ça, c'est Adam. Donc, Adam est égal, on a dit, à Adamé. Et alors, quel rapport avec Yaakov Avinu tout ça ? Alors, on dit comme ça. On dit que Yaakov Avinu, ce qu'on doit savoir, hein, c'est que la différence qu'il y a entre Yaakov Avinu et Adam Arishon, la Gemara elle raconte, à propos, pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire. D'abord, dans le Zohar, quand on parle de Yaakov Avinu, vous savez que Yaakov Avinu, on l'appelait également Israël. Et le Zohar, très souvent, quand il parle de Yaakov Avinu, il l'appelle Israël Saba. Israël, le grand-père. Le grand-père, Saba. Pourquoi le grand-père ? Quel rapport avec le grand-père ? Alors, regardez cette histoire. La Gemara raconte une histoire. Elle dit qu'il y avait une fois Rabbi Bana'a. Rabbi Bana'a, c'était une personne qui avait... Bana'a, en hébreu, ça vient du mot binyan. Binyan qui veut dire construction. Donc ça vient de en araméen, Bana'a, ça vient de l'hébreu binyan. Et donc pourquoi on l'appelait Rabbi constructeur, hein, c'est Rabbi Bouy comme on aurait dit aujourd'hui, parce que c'était une personne qui avait un don pour trouver des gvarim de tzadikim. Il trouvait des tombes de tzadikim, des tombes qui étaient désaffectées, et il venait et il créait autour de ces tombes des cimetières. Alors des cimetières, ça pouvait être soit un cimetière où d'autres personnes allaient être enterrées, ou soit carrément un OL. Comme ce qu'on a chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ce qu'on a chez beaucoup de tzadikim. Et ça, on nous raconte que beaucoup de tzadikim dont on avait perdu la trace. D'accord ? Et qui c'est qui les a retrouvés ? D'abord, il fallait être fort pour les retrouver, pour dire qui était là-bas. Rabbi Bana. Et en plus, c'était sa mission, c'est-à-dire qu'il ramassait des fonds pour ça, pour faire des gvarim de tzadikim. Pour donc rénover des gvarim de tzadikim. Bon. La Gemara raconte l'histoire suivante. Elle dit que lui, lorsqu'il est arrivé à la tombe d'Adam Arishon. Il est arrivé à la tombe d'Adam Arishon. C'est pas où c'est, hein. Lui, il a vu la tombe d'Adam Arishon.
On dit pas que c'est pareil, il y a Marpella d'Adam Arishon.
On sait pas exactement où c'est, à quel endroit.
Mais on dit que c'est...
On sait que c'est bon, on dit que c'est là-bas.
C'est là-bas.
Quand il est arrivé à la tombe d'Adam Arishon, il a voulu encore faire des rénovations, tu vois, il a voulu faire un... Il a voulu arranger un petit peu les choses là-bas. Et la Gemara raconte qu'il y a une voix qui est sortie du ciel et qui lui a dit la chose suivante. Qui lui a dit, sache que tu as vu uniquement l'image de mon visage, mais pas mon visage. Alors là-bas, les commentaires expliquent, ça veut dire quoi l'image de mon visage et pas mon visage ? Mais Farshim explique qu'ils lui ont dit, ça veut dire en vérité, tu as vu uniquement l'image de Yaakov Avinu, qui est l'image de mon image, mais mon image, tu ne l'as pas vue. Après, la Gemara, elle passe à la suite. C'est très crypté. Hein. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que de là, on voit que quand on dit que Yaakov Avinu ressemblait à Adam Arishon, c'était pas seulement physiquement, c'était pas seulement qu'il avait une neshama qui lui ressemblait, c'était que carrément à tel point que quand on est parti voir la tombe d'Adam Arishon, il lui a dit, tu crois que tu m'as vu, mais tu as vu en vérité l'image de mon image qui est Yaakov Avinu. C'est-à-dire que Yaakov Avinu ressemblait à Adam Arishon à 6 microns. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a dit de Yaakov Avinu ? On a dit que Yaakov Avinu était comme une Merkava. Donc j'ai dit la semaine dernière qu'on allait s'arrêter dessus. C'est quoi une Merkava ?
Un char.
Un char. Pourquoi on parle d'un char ? Quel rapport avec un char ? Alors on dit que Yaakov Avinu, il avait une qualité particulière, qu'on l'a retrouvée chez les patriarches un petit peu, on l'a retrouvée particulièrement chez Adam Harishon, cette notion d'être un char d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi un char? Un char, on avait fait un cours une fois sur ça il y a 3 ans, on avait expliqué que c'est quoi la notion d'un char. Un char, ça représente ce qui n'a pas de libre arbitre. C'est comme une voiture. Ça veut dire que tu prends le volant, tu tournes. Et ça tourne. Il n'y a pas de notion de « attends, je vais réfléchir, est-ce qu'on tourne, est-ce qu'on tourne pas ?» Ah bon, peut-être oui, peut-être non. Non. On dit que Yaakov Avinu, il avait cette notion de bitoul à Kadosh Baruch Hu, d'annulation à Kadosh Baruch Hu, exactement comme Avraham Avinu. D'accord ? Alors maintenant, avec ça, il continue. Vous allez comprendre tout. Là, je donne plusieurs éléments d'information qui peuvent vous paraître peut-être déconnectés l'un de l'autre. Vous allez comprendre tout de suite où je vais en arriver. Je reprends ma page. Veaya, donc je suis en bas de la page 222. Veaya Merkava, le Torah shel Mala shenikret b'shem Adam. Yaakov Avinu était donc un char pour la Torah d'en haut, qui est appelé b'shem Adam par le nom de Adam. Comment j'ai katouf comme c'est écrit? Valdmut akise dmut kemaré Adam. Que sur l'image de la chaise, il a vu dmut un visage kemaré Adam comme un homme. On a expliqué c'est quoi Adam. Comment chez katouf? Vezot le fanim be Israël, en zot et la Torah, shaita klulam, ou l'ubeshet ve nishmat Israël saba, a klulam mikol aneshamot, vezeu veikra lokel et loke Israël. D'accord. Alors je vais expliquer ce qu'il est en train d'expliquer ici. On dit que Yaakov Avinu, d'accord, lorsqu'il avait fait à un certain moment il a érigé une sorte d'autel, il a dit, il a appelé cet autel Kel et loke Israël. Le Dieu d'Israël. Et le Zohar explique, il dit, c'est quoi Israël? Encore une fois, il nous ramène cette notion. Il dit qu'Israël, c'est le grand-père. Israël, comment on a dit en hébreu le grand-père? Saba. Et là-bas, le Zohar explique, il dit, pourquoi on appelle Israël grand-père? Quel rapport avec le grand-père? Pourquoi tu parles de grand-père? Il dit, parce qu'en vérité, pourquoi Yaakov Avinu, il avait fait un hôtel à cet endroit-là? Parce qu'à cet endroit, Yaakov Avinu, il avait réussi à arriver au même niveau qu'Adam Harishon. Et c'est pour ça qu'on dit, Vaikra lokel, Eloke Israël. Ça veut dire que, il dit comme ça, Vaikra lokel et loke Israël. On a répété 2 fois le mot kel. Pour dire que c'est quoi Adam? C'est celui qui cherche constamment à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc il a dit kel, le Dieu qui est en haut, et loke Israël, c'est le Dieu d'Israël en bas. Ça veut dire que c'est quoi le rôle de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu est une neshama mère, et son rôle, c'est d'être omniprésent, d'être toujours là. D'accord? Et donc, Yaakov Avinu, comme on va développer tout de suite, représente la notion de klal. Ses enfants, les Shvatim, eux vont être la notion de prat. D'accord? Les enfants des Shvatim vont être le prat du prat. Mais Yaakov Avinu, lui, il avait une force, c'est qu'en vérité, l'histoire a commencé à partir de Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'en vérité, l'histoire de Am Israël, elle démarre pas à partir d'Adam Harishon. Elle démarre à partir de Yaakov Avinu. Mais en vérité, c'est comme si qu'elle démarre depuis Adam Harishon, puisqu'ils avaient la même neshama. Et plus que ça, on dit que Yaakov Avinu, à un certain moment, quand il a érigé un hôtel et qu'il a dit quel est loqué Israël, ça veut dire que le Zohar explique, il dit qu'à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a dit, ça y est, maintenant, j'ai compris qui était Adam Harishon et j'ai compris qui je suis. Ça, c'est Yaakov Avinu. Ça, c'est des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'en vérité, Yaakov Avinu, à ce moment-là, il a compris sa notion de klal. Alors, avec ça, le Zohar explique beaucoup de choses assez intéressantes. Il dit, regardez, on va analyser la vie de Yaakov Avinu. D'un côté, Yaakov Avinu, quand il démarre sa vie, on nous dit que Yaakov Avinu était Yoshev Oalim. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était installé dans les tentes et qui étudiait la Torah. Donc, on s'imagine, un Bachor Yeshiva, en train d'étudier la Torah, rien à voir avec le monde des affaires. D'accord? Quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, sous le conseil de sa mère, il va prendre la bracha à son frère, et là il va utiliser des techniques de ruse. Mais une technique qui n'a rien à voir avec sa nature. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Il va se lancer dans les affaires. Il va se lancer dans les affaires. Et pourtant, en parallèle, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que quand il était chez Shem et Ever, donc là-bas, il faisait des affaires, parce qu'il faisait, avec toute l'histoire qu'il avait avec la vanne, ils se sont arrangés, et moi je prends telle catégorie d'animaux, moi je prends telle catégorie d'animaux, etc. Donc il était dans le business. C'était un vrai businessman. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qui témoigne de la Torah? La Torah dit oui, mais toutes les nuits, il étudiait. Ça veut dire qu'Yaakov Avinu est une personne qu'on a du mal à cerner. D'un côté, il a un aspect en train d'étudier la Torah constamment, et d'un autre côté, tout après, tu te retournes, tu dis oui, mais c'est un businessman. Dans la vie que nous, on connaît chez les gens, c'est en général 2 caractéristiques qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Celui qui est plutôt Ben Torah, il est plutôt Ben Torah. Celui qui est plutôt dans les affaires, il est plutôt dans les affaires. On ne peut pas être les deux en même temps. On ne peut pas être à fond dans les deux en même temps, ce n'est pas possible. Et une personne chez qui on retrouve ça de manière très forte, comme on ne l'a jamais retrouvé chez aucun patriarche, et comme on ne l'a jamais retrouvé chez aucune autre grande personnalité qu'on connaît, c'est Yaakov Avinu. Tous les autres, ils avaient une nature et ils restaient sur cette nature. Par exemple, Abraham Avinu, c'était quoi sa mission? Sa mission, c'était de ramener les gens au monothéisme. Et c'était sa mission. Il n'était pas businessman. Il n'a jamais été businessman. C'était pas ses affaires. Chacun, il avait sa mission. Une personne chez qui on voit qu'il a touché à tout, comme on aurait dit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un il touche à tout, ça veut dire que ça marche nulle part. Mais lui, en fait, il y a... comme ça, on dit aujourd'hui. Hein?
Hein? Il a touché, ça a marché.
Ah, oh voilà. Lui, c'est le contraire.
C'est
Goldman. Pas mal, la référence.
Ouais.
Hein? Lui, c'est le contraire. Il a touché à tout. Pourquoi il a touché à tout? Parce qu'en vérité, sa neshama correspond à tout. Ça, avec ça, on comprend la personnalité unique qu'avait Yaakov Avinu. Il avait une neshama qu'on peut qualifier de klal. Une neshama générale. Et donc, une neshama générale, elle est passe-partout. Elle peut avoir une facette, et une autre facette, et une autre facette, sans aucun problème. Ça, c'est la notion du klal. Chose qu'on n'est pas capable de faire quand on est dans le prat. Impossible. Quand tu rentres dans les détails, quand tu as pris une branche, et après la branche, de la branche, de la branche, de la branche, tu es limité à cette branche, et c'est comme ça que tu dois servir à Kadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, lui, n'était pas comme ça. Il va développer longuement maintenant cette notion-là. Alors, quel... Donc, je suis au point, cinquième ligne de la page Kouf Yud Bet. Et donc, il développe. Il dit... Quel lashon amshachat ha'ara me orensof me ha'elem el ha'gilouy la'ir biprinat gilouy benishmato. Il dit, c'est quoi quand on dit que Yaakov Avinu, il a appelé à Kadosh Baruch Hu, quel? C'est quoi la notion de quel? Quel, en hébreu, c'est synonyme de chesed. D'accord? Le terme quel, c'est synonyme de chesed. Elohim, c'est din. Quel, le terme, je vais le dire une fois, el, d'accord? C'est synonyme de chesed. Et ça veut dire que Yaakov Avinu, sa neshama était une neshama qui était capable de tout faire en même temps. Et on dit que justement, sa neshama, elle avait la possibilité de faire descendre toutes les émanations divines pour n'importe qui. Extraordinaire, que personne n'a pu faire ça. Et d'ailleurs, le Zohar, il développe là-bas. Il dit, c'est pour ça que qui c'est qu'on a choisi pour aller travailler avec Lavan, pour aller travailler avec Esav, etc. C'était Yaakov. Pourtant, Yaakov, c'était pas la bonne personne. Yaakov, dans sa vie, il a travaillé avec des truands. Il a travaillé avec Lavan, déjà son beau-père. Il a travaillé avec Esav, son frère. C'est tous des truands. Ça n'a rien à voir avec sa nature, a priori. Nous, on se l'imagine Yaakov, celui qui est là, le petit toutou, en train d'étudier la Torah dans son coin, tu l'arnaques au quart de tour. Et on voit que, justement, la Torah lui a mis des gros paquets dans son chemin, des choses qu'on n'a jamais mis à personne d'autre. On n'a jamais mis des gens comme ça dans les pieds d'Avraham Avinu, dans les pieds de Yitzhak Avinu. Et le Zohar, il développe sur ça. Il dit, pourquoi on lui a mis ça à Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, il a une neshama klalite, il a une neshama générale. Il a une neshama générale, elle est capable de toucher à tout. Alors le Zohar, là-bas, il développe, il ne ramène pas ici. Il dit, c'est la raison pour laquelle on voit que les grands tzadikim, ils ont une affinité particulière avec les grands rechaïm. Vous avez remarqué ça?
Ah bon?
Ouais.
Bah oui.
Pourquoi? Des fois, c'est choquant même. Des fois, c'est vrai, c'est choquant. Tu vois un grand tzadik, tu le vois, il va sympathiser avec un grand rachat. Pourtant, tu dis, mais attends, mais c'est un grand rachat, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Qu'est-ce qu'il fait avec lui? C'est un grand rachat, c'est pas possible, il y a un problème, ça correspond pas. Et là, on a la réponse. C'est que quand tu es un petit tzadik, donc tu es limité à ta branche, bon, tu n'as pas le droit de bifurquer. Tu bifurques, on te dit, doucement, reviens à ta branche. Mais quand tu es un grand tzadik, quand tu es une neshama mère, comme Yaakov Avinu, il passe partout. Une neshama klal, elle passe partout. Elle peut toucher au rechaïm, elle peut toucher à qui tu veux, elle ne la touche pas. C'est ça, c'est un rabbi. C'est pour ça qu'il n'a pas peur, ni les rechaïm, ni de quoi que ce soit. Mais quand on est en mode prat, c'est pas la même chose. Alors il va développer encore cette notion. Donc, il dit, comment chez Katoub, comme c'est écrit, quel Hachem va yer la nouba harav kolishrelev, aoskim betorah ou mitzvot, mais or Hachem en savaruchu biprinat gilouy venishmatam. Ouzman gilouy, ça je vais développer tout de suite, ouzman gilouy ze beyeder sa deyeter azahara be mocha velibam, ou beshat atfila, que moche Katoub be makom acher. Ok. Alors, la Gemara Zaken, il dit, bon, tout ça c'est bien beau de développer sur la vie de Yaakov Avinu. Mais la question qu'on se pose, c'est nous, en quoi ça nous correspond, nous, maintenant? En quoi, maintenant, moi, dans ma vie de tous les jours, en quoi ça va me changer? Alors, tu dis, c'est très simple. Et tu dis que nous aussi, il y a un moment dans la journée dans lequel on est en mode Yaakov. C'est quoi ce moment? C'est quand on fait la tefila. Pourquoi? Quel rapport? Parce qu'il dit, c'est très simple. Quand tu étudies la Torah, tu as un sujet qui t'intéresse. Tu peux couvrir ce sujet, et les autres sujets, ben, tu vas pas forcément les toucher parce que ça t'intéresse pas ou parce que c'est pas la notion sur laquelle tu vas t'arrêter. Mais quand tu fais la tefila, dans la tefila, on touche à tous les sujets. La tefila donne le koach, la tefila donne la force à une personne d'être capable de toucher à tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la journée dans lequel on est capable un petit peu d'être klal, ça veut dire d'être à droite, d'être à gauche, d'avancer, de reculer, de tout faire en même temps. Dans la, au moment de la tfila, on peut être un petit peu au même niveau que Yaakov Avinu, ça veut dire avoir un petit peu une notion de klal. Alors, c'est la raison pour laquelle... Non, justement.
Non.
Elle fait du business. Je connais pas la blague. Une fois, on raconte une fois, hein, c'est pour Rim. Une fois, il y a un raf qui va voir un fidèle après la prière de l'Amida. Il lui dit, Shalom Aleichem, comment ça va? Comment allez-vous? Alors le fidèle lui dit, mais excusez-moi monsieur le rabbin, mais je vous ai vu il y a un quart d'heure, je vous ai salué en rentrant. Il lui dit, non, mais j'ai remarqué dans ta Amida que t'es parti à Hong Kong, t'es parti en Chine, t'es parti... C'était une autre blague encore. Une fois, hein, il y a quelqu'un, hein, il est en train de faire sa Amida, et tout d'un coup, il est en train de faire sa Amida, et donc bon, il fait sa Amida, il prend son temps dans sa Amida, et à un certain moment, il sort un paquet de cigarettes de sa poche, et il fait comme ça. Et continue sa Amida. Alors, il finit sa Amida. Et son copain qui lui dit, dis-moi, bon, apparemment, t'as fait une super Amida, mais c'est quoi le truc des cigarettes là? Qu'est-ce que c'est que tes cigarettes? Il lui a dit, je vais te dire, c'est très simple. J'étais en train d'imaginer comment j'allais pour prendre le train. Et le contrôleur, il m'a demandé, fumeur, non fumeur? Alors, comme je ne peux pas parler, c'est l'Amida. Alors, je lui ai montré mon paquet. C'est une blague.
Il est dans ses pensées.
Complètement dans ses pensées. D'accord? Ça veut dire, ça, c'est le pshat. Le pshat, c'est que le moment de la tfila, c'est un moment dans lequel on est un petit peu en mode Yaakov Avinu. On est en mode dans lequel on peut toucher à tout. C'est la raison pour laquelle on commence la journée par la tfila. On commence la journée par le klal. Et après, on va développer dans la journée, on va rentrer dans le prat. C'est ce qu'il va développer maintenant ici. Et on va tirer un enseignement très important. Veillez. Ap, chez Gilouizé, Aliédé, Essek, Atorama, Mitzvot, Ushavel, Chol, Nefesh, Misraël, Bederer, Klal. Bien que ce dévoilement, ce développement, ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire la notion qu'on commence la journée avec le klal, on commence la journée avec les règles générales. Tout le monde doit commencer la journée avec la tfila. Et après, pendant la journée, on va essayer de déballer les forces qu'on a prises dans la tfila pour les mettre dans la vie de tous les jours. Donc il dit, bien que tout le monde est capable d'arriver à ça, qui tora achat ou mishpa achat lekulanu, on va tous lire la même tfila. Et tout, la tfila va être la même pour tout le monde. Afal piken quand même. Beder prat. Voilà. Là, on a trouvé encore un exemple. Là, on va trouver encore un exemple, et ça, c'est un exemple qu'on peut, on peut comprendre de manière concrète comment on est tous différents. Il prend un autre exemple, c'est la tfila. On a eu l'occasion de développer les différences entre le klal et le prat, dans le limoud, dans les neshamot, dans l'éducation, dans beaucoup de choses. Là, maintenant, il va développer encore une notion, il dit, regarde la tfila. Qu'est-ce que c'est la tfila? Rambam, il explique que, à la base, la tfila, il n'y avait pas de texte prédéfini pour la tfila. À la base, chacun, il faisait cette tfila comme il la sentait. Parce que c'est quoi la tfila à la base? La tfila, normalement, on devrait même pas la faire tous les jours. Le schéma, oui. Mais la tfila, minatora, il n'y a pas d'obligation de faire la tfila tous les jours. Minatora, c'est quoi le chiyuv de la tfila? C'est que quand une personne a quelque chose à demander à Kadosh Baruch Hu, eh ben, qui le demande? Il demande à Kadosh Baruch Hu. Comme un fils qui demande à son père. Quand il va demander à son père, il va en jouer. Il va pas prendre un texte, il dit, voilà, papa, alors donne-moi un jouet, s'il te plaît. Il pose le livre, d'accord? Et il attaque. C'est comme ça qu'on faisait la tfila avant. Exactement comme un fils qui demande un jouet à son père. Ou qui demande quelque chose à son père.
Donc si tu fais que d'accord le schéma, t'es quitte de ta tfila alors?
Non, attendez, doucement. Maintenant, après, les chachamim ont rajouté, les chachamim après se sont rendus compte. C'est Rambam qui raconte ça. D'ailleurs, je l'avais dit quand j'avais fait il y a 2 ans notre cours d'introduction sur la tfila. Et donc, le Rambam, il raconte le développement de la tfila. Il dit, avec le temps, après, les Rambam se sont rendus compte que les gens ne parlaient plus très bien hébreu. Et que même s'ils parlaient hébreu, l'hébreu était une seconde langue. N'était pas leur langue primaire. Et donc, du coup, vous savez, quand c'est pas notre langue primaire, donc on a du mal à former des belles phrases. Et donc, du coup, les gens, quand ils faisaient leur tfila, ils essayaient de faire la classe, de parler en hébreu, tu vois, de dire en hébreu. Mais le problème, c'est que les mots qui sortaient étaient des mots, dans les mots du Rambam, c'était ileg. Ileg, c'est-à-dire, c'était des mots un petit peu tordus, quoi. C'était du mot, un hébreu qui était pas joli. Alors, les Rambam, quand ils ont vu ça, ils ont dit, dans ce cas-là, il faut qu'on crée un texte pour tout le monde. Le problème qu'ils avaient, explique Rambam, c'est que les Rambam m'ont dit, mais comment on va créer un texte qui va correspondre à tout le monde? C'est impossible. Chacun, il a sa demande. Alors le Rambam explique là-bas la chose suivante. Il dit que les Anshei Knesset HaGedola, on a rassemblé les plus grands Chachamim. On ne sait pas exactement qui a composé, mais on sait que c'était les plus grands Chachamim de Anshei Knesset HaGedola. D'accord? Donc de la grande assemblée. C'est-à-dire déjà de tous les Chachamim du Ham Israël, on avait formé une grande assemblée. Une grande assemblée qui a fait une grande partie des règles qui nous ont permis d'avoir la Mishnah et après ça la Gemara. C'est très important le boulot qu'ils ont fait. C'est eux qui nous ont mis les règles, comment s'installer dans un pays. Beaucoup, beaucoup de règles très importantes. On a rassemblé les meilleurs cerveaux d'un Knesset Agedola et ils se sont dit, on ne bouge pas d'ici tant qu'on ne fait pas un texte qui correspond pour tout le monde. Et c'est là qu'ils ont créé la Amida. Alors, la Gemara développe, ça leur a même le dit pas, mais la Gemara développe, elle dit qu'après, avec le temps, avec la force de la galoute, malheureusement, à un certain moment, on a oublié ce texte. On a oublié des parties de ce texte. Parce que bon, le texte n'était pas encore très répandu, on l'avait pas encore vraiment imposé à tout le monde. Et donc, on a oublié des parties de ce texte. Et la Gemara raconte là-bas, de mémoire, c'était Shmuel, qui, les Chachamim étaient très embêtés parce qu'ils savaient qu'il y avait un texte qui correspondait à tout le monde, et on n'arrivait pas à le retrouver. La Gemara raconte qu'on a eu un sage, de mémoire c'est Shmuel, mais je ne suis pas sûr, donc bon, je mets une réserve, qui lui a été capable de retrouver, avec la force de sa mémoire et son Ruach HaKodesh bien sûr, de retrouver le texte original, sans bien sûr avoir les origines. Et le Rambam, il explique, il dit que cette pièce, cette tfila que les Chachamim ont fait, on appelle ça dans la Gemara souvent Matbea Shetav'u Chachamim. Matbea, c'est une pièce. Une pièce. Prends qu'on parle de fil à une pièce de monnaie. Il dit parce que c'est comme une pièce de monnaie. Tu prends une pièce, tu achètes ce que tu veux avec. Tu comprends? J'ai dit je vais acheter du pain. On te dit pas pour acheter du pain il faut telle monnaie, pour acheter de la farine il faut telle monnaie. Non. Tu as de la monnaie, la même monnaie pour tout le monde.
Ça passe partout.
Et ça passe partout, tu achètes ce que tu veux avec. Les Chachamim, quand ils ont fait la tefila, ils ont imaginé la tefila comme une clé, c'est dans un endroit comme une clé, mais aussi comme une pièce. Comme une pièce, tu achètes avec. D'accord? Et là, le Rambam, il développe justement cette notion de klal et de prat. Très rapidement, mais c'est ce qui correspond à notre sujet. Qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Les Chachamim, ils ont fait un texte dans lequel tout est écrit. Tout est là. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire, je veux demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, à la limite, théoriquement, il n'a même pas besoin d'intégrer une demande personnelle. Vous savez, il y a des endroits dans la tefila où on dit que celui qui veut demander la tefila pour un malade, ou etc., une demande perso, il peut l'intégrer dans le chemin kolenu, etc. Mais concrètement, la majorité des gens ne le font pas. Pourquoi ils le font pas? Parce que on considère que, normalement, la tefila, tout est dedans. Ah, pourquoi dans ce cas-là, il y a des gens qui veulent rajouter refouenu et guérir aussi un tel et un tel? Ça, c'est pour la personne, pour se rassurer, parce que des fois, on a du mal à le ressentir. On dit, bon, alors tu sais quoi, tu veux dire ta phrase, dis ta phrase. Ça fait plaisir, vas-y, dis-le. C'est presque ça. En gros, c'est ça. Mais en vérité, c'était déjà dans le texte. C'était déjà dans le texte. Seulement quoi? C'était dans le texte en mode klal. Ça veut dire qu'il y a un texte général pour tout le monde. Et tout est dedans. On sait que tout est dedans. Quel est notre rôle maintenant dans la Amida, quand on fait notre Amida, quand on fait notre tefila? C'est d'essayer de retrouver le détail qui me correspond dans la tefila.
Ah, mais c'est jamais le même détail.
Exactement. Ben justement, et voilà, voilà, on y arrive. Ça veut dire que le texte est le même pour tout le monde. Mais chacun, on sait, essayez d'analyser la Amida que vous faites. Vous allez voir que chaque jour, la Kavana, on va essayer de mettre la Kavana dans la Amida, chaque jour, la Kavana ne sera pas la même. Une fois, on aura plus de Kavana dans une bracha, une fois, on aura plus de Kavana dans une autre bracha. Chaque jour, ce sera une autre Kavana. Est-ce que ça veut dire que la Amida a changé? Non, la Amida n'a pas changé. Le klal est resté le même. Qu'est-ce qui a changé? C'est le prat. Ça veut dire que finalement, selon ce qu'explique ici la Gemara Zaken, quel est le rôle d'un juif? C'est le développer du prat. On n'est pas là pour du klal. On n'est pas là pour développer des grandes lignes, les mêmes pour tout le monde. La grande ligne, on les a déjà. Ils ont déjà été développés par les Chachamim, les 613 mitzvot, on les a déjà, la Tfila, on l'a déjà, la Torah, on l'a déjà, les grandes lignes, on a déjà. Quel est le rôle d'un juif dans la vie? Le rôle d'un juif dans la vie, c'est d'essayer de développer le prat dans le klal. D'essayer, par exemple, de voir dans la Mida quelle bracha me correspond le plus. D'essayer de voir dans la Torah quelle partie me correspond le plus. De retrouver le prat, d'essayer de personnaliser au maximum ce que je suis en train d'étudier. Ça, c'est notre rôle, c'est pour ça qu'on est là.
Mais pas seulement pour lui, mais aussi vis-à-vis des autres.
C'est-à-dire
par rapport aux enfants, à la famille.
Ah oui, ce qu'on a développé. C'est ce qu'on a développé la semaine dernière. Oui, bien sûr. C'est la notion de clé et prat qu'on a développé. Alors, dans les mots. Je reprends avec Iné. Vous allez voir, c'est très intéressant comment il va développer. Il va faire la différence entre les générations, entre les tzadikim, il va nous montrer cette notion encore de klal et de prat. Mais là, la différence avec le cours de la semaine dernière, c'est que là, on va rentrer beaucoup plus dans les détails de manière qui va nous correspondre à nous. C'est-à-dire de manière, on va comprendre, ça me fait quoi dans la vie? C'est très intéressant ce que tu me dis, qu'il y a quand même une, il était comme ça, et qu'un autre arabe, il était comme ça. Mais moi, dans ma vie, ça me fait quoi? Il explique. Je reprends Veiné Avshegilou. Vous savez?
Oui.
Donc je suis à la... Pour ceux qui ont le Tania, là, c'est...
Page, hein.
Voilà, 10, à peu près 12e minute, je crois. Vein. Av shegiluize aliede sakatora va mitzvot ou shave lechol nefesh mi Israël. Bien que l'émanation qui vient quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot, est la même pour tout le monde. Ça veut dire que moi, je fais l'Amida, et chacun de nous, il fait l'Amida, on va amener exactement la même émanation, en mode klal. C'est exactement le même produit. le même moteur, c'est la même chose. Alors où est l'innovation? Quand même, il dit qui Torah achat mishpa achat lekulanu. Et ça, on n'inventera du tout. Il y a un verset qui dit comme ça, hein, qui dit Torah achat mishpa achat lekulanu. On a tous la même Torah. On a tous la même Torah et on a tous le même jugement. Ça veut dire que quand moi je fais une mitzvah et quand un autre il fait une mitzvah, on génère la même quantité de lumière, on génère la même chose. Alors où est la différence? A fal piken quand même, bederer prat. Quand on rentre dans les détails de la tfila déjà, comme on a expliqué, des mitzvot, en kol nefashot o aruchot va neshamot shavot beinenze lefi et uzman gilgula mubam baolam azeh. Alors ça c'est très intéressant ce qu'il va dire ici. Il va dire qu'en fait, vous savez qu'on est tous des gilgulim. Nous sommes tous des gilgulim. Et il dit en fait, ce qui est très fort aussi, ce qu'il dit, c'est qu'en vérité, ce qui est possible, c'est que dans une incarnation précédente, c'est possible que notre neshama était intéressée par d'autres mitzvot. C'est très possible. Que ma neshama, elle était intéressée par d'autres mitzvot que par lesquelles je suis intéressé maintenant. Pourtant, on en dit, c'est pas possible, c'est la même neshama. Elle fait partie de la même branche. Je dis non, je suis pas comme ça. Ça dépend du gilgul. Ça dépend de l'heure, ça dépend du moment dans lequel on arrive dans le monde. On va développer tout de suite. Maamarazal avour bemaya vezeir tfe amarle betiti. Il y a une Gemara qui raconte. Gemara a dit qu'une fois, hein, c'était une fois un Rav qui a demandé à un autre, je ne sais plus qui c'était, d'accord? Peut-être qu'il l'amène ici. Bon, il n'amène pas ici. Il était. Attendez, je vais voir s'il l'amène ici. Non, il n'amène pas ici. Il dit comme ça. Il dit avour. Donc il y avait une fois un Rav qui a demandé à l'autre, c'est dans la Gemara Brachot. Il lui dit avour bemaya vezeir tfe. Il lui a dit, dis-moi. Ton père, Bemaï avait Zéhirtfé, dans quelle mitzvah il faisait particulièrement attention? Il lui a répondu, il a dit, il faisait particulièrement attention dans la mitzvah des Titites. Ça, il lui a répondu. Et les Mefarchim, là-bas, le Marcha, etc., il s'arrête beaucoup sur cette notion. Ça veut dire quoi? Il dit, mais toutes les mitzvahs sont à faire attention. Il dit, non. Il dit, la question qu'il voulait poser, c'est que chacun, selon son Gilgul, numéro 1, c'est-à-dire selon d'abord le Gilgul, si la Neshama a été réincarnée dans le monde, parce qu'elle a une mission. Donc forcément, elle va être attirée vers les choses qui correspondent à sa mission qu'elle doit faire dans ce monde, numéro 1. Numéro 2, ça va correspondre aussi, comme il dit ici, au moment où on vit dans le monde. C'est-à-dire qu'une Neshama qui est descendue en 2012 et une Neshama qui est descendue en l'an 1000, c'est pas la même chose. Elles n'auront pas forcément la même mission. Ça, c'est numéro 2, d'accord? Numéro 3, selon les fréquentations qu'il va avoir, selon la femme avec qui il va se marier, selon les enfants qu'il aura, selon son environnement, c'est trois facteurs qui vont faire par quel mitzvot on va être attiré. D'accord? Ça influence. Et c'est fait exprès, c'est voulu par un Kadosh Baruch Hu. C'est trois facteurs qui vont nous pousser vers certains prats. Donc je répète, numéro 1, c'est l'incarnation. Si un Kadosh Baruch Hu a fait que ma Neshama a été réincarnée, c'est pour un but précis. Donc naturellement, je vais être guidé vers les mitzvot qui sont autour de ce but. Donc notamment ce Rav-là, il est attiré par la mitzvah des Titit, parce que sa Neshama avait un tikkun à faire avec les Titit. D'accord? Ça c'est numéro 1. Numéro 2, on a dit, selon la période dans laquelle on est venu dans le monde. Ça veut dire donc, par exemple, s'il est venu maintenant, s'il est venu en l'an 2012, s'il est venu ou s'il était venu il y a 1000 ans, c'est pas la même chose. Il n'aura pas forcément la même mission. Et numéro 3, l'environnement avec qui il va se marier, qui seront ses enfants, qui seront ses amis. Ces trois facteurs que je suis en train de dire ici vont influer fortement sur le prat, vont influer fortement sur les choses sur lesquelles je vais m'intéresser à rentrer plus en détail. D'accord? Et il va donner un exemple de la vie de tous les jours. Ici, c'est très simple. Il dit, alors en passant, puisque j'ai déjà parlé de ça, la Gemara a dit « Avour bema yavezeir tfe ». Il posait la question à un maître, il posait la question à son ami, il lui a dit « Ton père, de quoi il faisait zahir ?» On a dit, ça veut dire quoi? De quoi il faisait plus intéressé. Attention, d'accord? Baal Shem Tov explique la chose suivante. Baal Shem Tov, il dit, dans le mot zahir, on a le mot zohar. Zohar en hébreu, qui veut dire quoi? Qui veut dire la lumière, la clarté. Et en vérité, la question qu'il est en train de poser, c'est qu'il est en train de dire avour ton père, bema yavezeir tfe, dans quelle mitzvah il brillait le plus? Ça veut dire que quand c'est une mitzvah qui nous correspond, on brille dans cette mitzvah plus que dans d'autres mitzvot. Vous savez, il y a des fois des mitzvot qu'on fait et on sent que ça pousse, on sent que ça avance,
c'est marrant ce que
on sent que ça brille.
Ça
dit le Baal Shem Tov. Juste deux secondes. Et le Baal Shem Tov, il explique. Le Baal Shem Tov, il explique, il dit que quand on voit qu'il y a une mitzvah dans laquelle on brille, zahir, zohar, ça veut dire que c'est une mitzvah qui est notre prat, qui correspond à notre neshama. C'est une mitzvah dans laquelle on brille. Vous voyez, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous laisse pas en plan. On a le klal, c'est la Torah, c'est la tfila, c'est les grandes lignes. Après, on a le prat, comme on l'a dit, selon plusieurs facteurs. Maintenant, la question, c'est comment je vais trouver ce prat? Comment je vais trouver ce détail qui me correspond? Alors bon, déjà, Akadosh Baruch Hu, il va s'arranger pour que tu tombes dans le bon environnement, dans la bonne famille, avec la bonne femme, avec les bons amis, avec, enfin, ce qu'il faut pour, enfin, les bons, peut-être toi tu vas les considérer mauvais, mais Akadosh Baruch Hu s'arrange pour t'envoyer dans un environnement qui va te pousser à arriver vers une certaine direction. Mais il y a un indicateur. C'est quoi l'indicateur? C'est que quand tu... Elle est peut-être dure la mitzvah, mais quand tu fais la mitzvah, tu sens que ça brille. Si tu sens que ça brille, c'est-à-dire que c'est ta mitzvah. C'est ton prat, c'est ton détail. C'est ta mitzvah, c'est pour toi. Bema yavezeir. D'accord? Alors maintenant, quel rapport maintenant avec le... Maintenant, je vais revenir à la notion qu'on avait expliquée au tout début de cette lettre. La notion de chélek et goral. Vous allez voir comment c'est magnifique, comment il va expliquer. C'est la même manière, exactement, la même chose. On a dit, c'est quoi chélek? Chélek, c'est une partie. Ça veut dire que, par exemple, j'ai ici les sushis, d'accord? Chacun va recevoir une part qui correspond, chacun va recevoir une part qu'on va partager pour tout le monde, d'accord? Ça, c'est chélek.
Équitablement.
Goral, c'est équitable. Goral, c'est quoi? On a dit goral. Goral, c'est quand tu as un facteur qui dépasse l'entendement, qui vient de l'au-delà. Et bien, l'Admor HaZaken dit la chose suivante. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pour te montrer quel est ton chélek, quelle est ta partie, quelle est ta mission, quel est ton prat, il va utiliser du goral. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer des appels de phare de l'au-delà. Il va s'arranger pour que tu tombes dans certaines situations, que t'aies les chamelles brillent, que tu te sens bien, ou bien que c'est difficile. Il va s'arranger pour que tu tournes autour de cette mitzvah. Ça veut dire que pour que tu trouves ton chélek, chacun de nous, il a son chélek, chacun de nous, il a sa partie à développer. Comment on retrouve son chélek? Akadosh Baruch Hu, il envoie le goral. Il t'envoie un signal de l'au-delà. On a dit, c'est quoi la différence entre chélek et goral? Le goral, il vient d'en haut. Le chélek, il est d'en bas. C'est pour ça qu'on a expliqué, quand on a partagé la terre d'Eretz Israël, vous rappelez ce qu'on a expliqué au premier cours, comment on a partagé la terre d'Eretz Israël? On a dit d'abord, on a partagé la terre d'Eretz Israël en part équitable, chélek. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on a tiré au sort. Prends la tiré au sort, à quoi ça sert? De toute façon, on avait déjà partagé. Pourquoi ça correspondait? Justement, parce que des fois, pour te montrer le bon chélek, et pour être sûr que tu as pris la bonne part, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un appel d'en haut. Il t'envoie un goral, c'est-à-dire qu'il t'envoie un appel d'en haut pour te dire, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais moi je veux m'arranger d'en haut sans que tu comprennes trop ce qui s'est passé, pour que tu arrives dans cette situation. Et quand tu arrives dans cette situation, c'est ta mission. C'est ce que tu dois faire. Ça, c'est comme ça qu'explique le Baal Shem Tov, la notion de Avour Bemaï Ave Zahir, Avour Bemaï Ave Zahir Tfé. Alors, on dit que ça, en vérité, cette notion de Zahir Tfé, cette notion de la Neshama qui brille, on le retrouve pas seulement chez nous, on le retrouve même chez les Tzadikim. On voit que chaque tzaddik, il a une particularité. D'accord ? Chaque tzaddik a une particularité. Chaque tzaddik, par un tel tzaddikim qui était très fort pour la tzedaka. Tel tzaddikim qui était très fort pour le rachat des prisonniers. Tel tzaddikim qui était très fort dans la halakha. Tel tzaddikim qui était très fort pour approcher les gens. Chaque tzaddik, il a sa particularité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le reste.
On peut parler d'un talent ?
Chaque tzaddik, alors, c'est pas un talent, justement. C'est un prat. Ils ont peut-être des talents ailleurs. Mais c'est un prat qui lui correspond. C'est un prat, le Kadosh Baruch Hu dit, voilà, tu as un klal, c'est très bien, mais ton prat, c'est celui-là qui te correspond. Et en vérité, notre rôle dans la vie de tous les jours, c'est d'essayer de chercher un prat, le prat qui nous correspond. Maintenant, ce qu'il développe là-bas, l'Admor HaZaken, il dit qu'en vérité, des fois, une personne peut avoir plusieurs prats à développer dans la vie. C'est pour ça qu'une fois, on va avoir une direction, et après, on va bifurquer sur l'autre mitzvah. Selon les prats qu'on a développés. Alors, la question qu'on se pose, que tout le monde se pose, on avait fait un cours une fois sur ça aussi, comment je peux savoir quelle est ma mitzvah? Donc, on a dit d'abord, un Kadosh Baruch Hu, il fait que cette échama brille, d'accord. Alors, ça, c'est écrit, ça on le tire de la Gemara là-bas. La Gemara Brachot, elle dit que ce rave-là, justement, qui a dit que son père faisait traite sur le titit, la Gemara là-bas, elle raconte que, justement, on dit que son père, il avait toujours des galères avec les titites. Nous, est-ce que vous avez déjà eu une galère avec les titites? Bon, normalement, non, si tu l'achètes, il est là, il est cachère, et c'est fini. Hein?
C'est pour les cours de la synagogue.
Ah voilà. Tu as des gens qui ont des galères avec les titites. Du style, ils se déchirent, ou bien ils oublient de le mettre, ou bien des galères. Ils disent, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive? Et bien, de là, la Gemara, enfin, on comprend de la Gemara, parce que la Gemara raconte juste à côté. De là, on comprend qu'en vérité, la mitzvah sur laquelle Kadosh Baruch Hu te met les bâtons dans les roues, ça montre que si le Satan il te met les bâtons dans les roues, ça veut dire que c'est ta bonne mitzvah. C'est la mitzvah qui est ton prat, que tu dois développer. Ça, c'est ton prat. Mais sache une chose, que cette mitzvah, une fois que tu vas réussir à la faire, tu vas voir comment ça va briller. Comme personne d'autre.
Après, tu peux remonter.
D'accord? Ça va briller comme ça brille pour personne d'autre. Pourquoi? Parce que c'est ta mitzvah, c'est ton prat, c'est ton détail, c'est ce que tu dois développer.
Ouais, ça veut dire, si tu as fini ta mission, tu peux remonter, c'est-à-dire?
Non,
c'est-à-dire si tu sais que c'est ça, tu
le jour où le prêtre, le jour où le prêtre, j'ai expliqué dans la vie, on peut avoir des fois plusieurs prêtres à développer.
Je sais pas, tu me poses une question. Si c'est ta mission, tu viens juste pour corriger ça. Si bon, tu sais que c'est ça, tu vas peut-être presser ou pas presser en fonction.
En général, on dit qu'il y a un prêtre par 10 ans.
Faut être trop curieux.
J'entends. Ouais, par 10 ans.
Ah, donc on n'a pas un seul.
Non.
Ah, là ça.
En général, on dit que tous les 10 ans, on change. D'accord.
Oui.
Je sais pas. En général, on dit que tous les 10 ans, on change. Comme ça, c'est écrit.
On change avec réussite du précédent, sinon ça marche pas.
Oui, mais bon, en général, on dit que tous les 10 ans, on change. Et ça veut dire, quand je dis on change, ça veut dire on prend une autre direction. On prend une autre direction, une autre piste. En général, c'est en moyenne tous les 10 ans, normalement. Comme ça, c'est écrit. On le voit d'ailleurs, hein, on le voit. Quand on fait la différence entre 20, 30 ans, et après 40 ans, et 50 ans, et 60 ans, etc., jusqu'à où on peut arriver, on voit qu'il y a une différence, on voit qu'il y a une direction. C'est clair. Ça, c'est la notion du prat. Ça veut dire qu'en réalité, le clal reste le même, la structure reste la même, mais le prat, il va changer. Le prat, il va changer. Kadosh Baruch Hu, il fait juste de manière à ce que le prat va changer. Mais il s'arrangera pour te le montrer. Vous avez une question, monsieur Berger, tout à l'heure.
Non, c'était juste une remarque, parce que j'avais assisté à une conférence de Kelrav il y a longtemps. Quand tu as fait allusion au fait que la personne, quand il trouve sa mission, son état, son truc, il brille.
Oui.
Il avait raconté la même chose par rapport à quelqu'un qui fait tchouva. Quand quelqu'un qui fait tchouva, les gens, ils voient tout de suite qu'il est en train de faire tchouva parce qu'il y a comme une lumière en lui qui n'était pas encore perceptible avant.
Uh-huh.
Et alors au début, c'est vrai, ils essayent de faire tchouva, hein, tous. Un peu de zèle en étant exacerbé dans telle pratique plutôt que de l'autre. Et très rapidement, après, tout ça,
trouve sa direction.
Oui, c'est clair, c'est clair.
Et là, la bruyance, elle est encore plus...
C'est clair qu'on a plusieurs pratiques dans la vie, ça c'est clair. On a plusieurs pratiques dans la vie, là. Juste pour vous raconter une petite histoire pour illustrer ça, pour illustrer cette notion de prat et comment le prat, des fois, on peut avoir une chose qui est notre mission dans la vie et que, quelque part, ça ne nous lâchera pas tant qu'on n'a pas fini. On raconte que c'est une histoire qu'a raconté le père du Ravi Olkan. Il a raconté, il a dit qu'il avait l'habitude, le Ravi Rachab, c'est lui qui a fondé la Yeshiva Tom Chetmimim, la mère des Yeshiva Lubavitch. Et donc il a raconté qu'il avait l'habitude, le Ravi Rachab, chaque année, il y avait un repas qu'il faisait avec les élèves. C'était le repas de Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, Soudat Mashiach. D'ailleurs, c'est lui qui a instauré d'ailleurs les quatre coupes. Ouais. Alors, il a raconté, on est donc seulement comme c'est un repas auquel il devait participer. Donc déjà depuis avant Pessah, il venait vérifier la cuisine parce qu'il savait qu'il devait manger cette nourriture. Donc il rentrait dans la cuisine et il regardait tous les détails, caché, pas caché, etc. Et on dit qu'il était connu comme quelqu'un de très 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 pointilleux, à tel point que les élèves, ils faisaient tout leur possible, c'est avec le rabbi, il allait passer dans la cuisine et chaque fois il retrouvait quelque chose. Et une année, il arrive et il voit, donc il dit bon, qu'est-ce que vous avez préparé pour le soir du CDR? Et voilà, ils ont préparé pour le premier plat du radis, un plat avec du radis. Du radis. Alors il leur a dit, mais est-ce que vous savez pas qu'on n'a pas le droit de manger du radis? Le radis, pourquoi le radis c'est interdit à Pessah? Vous savez pas? Alors tout de suite il y a eu la rumeur qui s'est répandue. Le rabbi a dit que les radis sont interdits. Alors, bien sûr, les élèves de la yeshiva, ils ne sont pas des dernières pluies. Ils ont dit, bon, si le rabbi a dit, certainement qu'il a dû se baser sur quelque chose. Donc ils ont essayé de comprendre, de chercher dans les sfarim, parce qu'il n'y a pas un sefer qui parle de ça, de la raison pour laquelle le rabbi a dit qu'on n'a pas le droit de manger les radis.
C'était beaucoup de radis sur les radis avec elle.
D'accord. Alors il dit comme ça, et il dit, et donc il raconte, et il dit, donc il dit bon, mais les élèves n'ont pas forcément trouvé, et ils n'osaient pas trop demander au rabbi, quoi. Vous savez, bon, le rabbi l'a dit.
Au moins, d'accord, ils ont étudié, ils ont cherché,
je ne sais pas s'ils ont eu le temps de tout chercher encore, mais en tout cas, ils sont en train de chercher. Et il raconte donc le père du Ravi Olkan, il dit après Pessah, lorsqu'il est reparti à sa ville, donc il est reparti à Moscou, il a raconté au chassidim, il a dit, vous savez, le scoop, c'est que le rabbi, à Pessah, il a dit que les radis sont interdits. Bah, nouveau scoop, on ne savait pas que les radis étaient interdits. Alors, il y avait un chassid qui a entendu ça, et lui, il s'est dit, bon, moi, je vais demander au rabbi. Alors la fois d'après, quand il est venu voir le rabbi, il a dit, écoutez rabbi, j'entends que personne n'avait osé, on a peur d'un rabbi. Personne n'osait demander au rabbi. Alors lui, il est venu, moi je demande au rabbi. Il est rentré chez le rabbi, il a dit, rabbi, comment ça se fait, vous avez interdit les radis? Qu'est-ce qu'il y a dans les radis? Alors, le rabbi, il a dit la chose suivante. Je ne sais pas si il a vraiment répondu à la question, mais il a dit la chose suivante. Il a dit, tu sais, chaque juif, il doit avoir une mitzvah dans laquelle, dans cette mitzvah, il est zahir, donc il brille, et il doit faire attention plus que les autres mitzvahs. Et il dit, je vais te dire quelque chose. Chez moi, cette mitzvah, c'est quoi? C'est Pessah. D'accord? C'est Pessah. Alors, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, il a donné un exemple. Il a dit, alors, en quoi ça change? Je vais te donner un exemple. Il lui a dit, combien de magasins il y a dans ta ville? Combien de boutiques il y a dans ta ville? Alors, il a répondu, il a dit, je pense qu'il y a environ 200 boutiques. C'est petit. Oh, je pense qu'il y a environ 200 boutiques. Et il lui a dit, et combien de voleurs il y a dans la ville, d'après toi? C'est un petit truc. Il a dit, de voleurs? Il a dit, je pense, les grands voleurs, je pense qu'il y en a 5-6, environ, qu'on connaît. Alors, il lui a dit, il a posé la question au rabbi, il a dit, est-ce qu'on garde tous les magasins? Alors, il dit, oui, bien sûr, on garde tous les magasins. Il lui a dit, mais je comprends pas. Il y a 5-6 voleurs, donc ils peuvent voler que 5-6 magasins. Ils peuvent pas voler 200 boutiques. Pourquoi on garde les 200 boutiques? Il a dit seulement, c'est ça le pchat. Le pchat, c'est qu'on peut pas savoir où le voleur il va rentrer. Donc, quand on peut pas savoir où le voleur il va rentrer, on doit garder les 200 boutiques. Il a dit, c'est exactement la même chose. Moi, quand je me prépare à Pessah, je sais pas où le problème va arriver. Il n'a pas vraiment posé la question, hein, mais bon. Il lui a dit, il y a des fois des choses, que comme on sait pas d'où le problème va arriver, donc on va mettre des khumrot. En vérité, je trouve que c'est une image magnifique pour expliquer la notion de la khumra. Que des fois, on met des barrières. Mais en vérité, c'est vrai, des fois, quand tu vas expliquer ça, des fois, dans des cours, on va te dire, mais attends, c'est une barrière qui est très très loin, c'est un problème qui va jamais arriver. Et je pense cette image, j'ai trouvé cette image magnifique, l'image du voleur.
C'est le principe de précaution.
Mais oui, précaution. Le voleur, on sait qu'il va rentrer que dans 5 ou 6 endroits, mais on va protéger 200 boutiques. D'accord ? Il n'a pas répondu à la question. D'accord, il n'a pas répondu à la question. Mais il a simplement expliqué que dans le cadre, il a simplement expliqué que c'était une khumra. En fait, il a répondu à la question, de la réponse, on a compris que c'était en vérité une khumra qui était très très recherchée. Que normalement, le voleur ne devait pas rentrer, parce que bon, il était occupé ailleurs, et qu'on a déjà une bonne porte, etc. Mais on met quand même un garde.
Il a dit que dans le radis, il aurait pu avoir un soupçon de Hamed.
Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi.
Non, mais
il n'a pas dit.
Il a... Non, s'il a dit le radis pour lui,
je ne sais pas. Je sais pas.
Nous, on comprend comme ça. Comment tu veux qu'on comprenne?
Il n'a pas répondu, je ne sais pas. Il n'a pas dit.
Donc, on n'a pas la réponse à cette rue du radis.
Depuis chez Rabban, on ne prend pas le radis à Pessah.
C'est sérieux?
Ouais.
Puisque... Pourtant, il me semble avoir vu dans des gadotes, des radis ou les machins.
Chez nous, non, chez Chabad.
Oui, chez Chabad. Le réfort. Mais le réfort, c'est pas du. Oui, c'est ça qui me semblait. Ça ressemble au radis.
Je sais pas pourquoi, il a pas donné la raison. Il y a aussi une autre histoire qu'on rencontre aussi avec le Rabbi Rachab, justement, du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, lui. Le radis.
Le radis, vous en mangez pas?
Pas à Pessah, non.
Sérieux?
On mange que les patates à Pessah. Des patates et des carottes et des.
Et de la vodka. C'est la colle de patate.
Alors, rigole. On raconte, puisqu'on parle du Rabbi Rachab, on raconte aussi avec le Rabbi Rachab qu'une fois. Puisqu'on s'approche de Pessah quand même. On raconte avec le Rabbi Rachab qu'une fois, le Rabbi Rachab chez lui à la maison, à Pessah, il voulait pas de sucre. Pas de sucre. Ouais, chez nous aussi, on prend pas de sucre. Il y a des Chabad qui prennent du sucre. D'accord ? Oui, pas de sucre. D'accord ? Alors une fois il y a le beau-frère du rabbi Rachab qui était quelqu'un qui avait des moyens et donc il a dit rabbi pourquoi vous prenez pas le sucre à Pessah? Il a dit parce que bon le sucre peut-être s'est mélangé avec le blé etc. Enfin il a sorti un truc un peu comme ça quoi. Alors il a dit rabbi moi j'ai des usines, il y a pas de problème. Et moi je vous garantis une production 100% cachère. La méhadrine vous pouvez prendre sans problème. Le rabbi a dit, écoute, vas-y, essaye. D'accord ? C'est une vraie histoire. Hein. Il a dit, vas-y, essaye. Et donc, lui, il a mis tous les idourines possibles. Il a pris les meilleures personnes possibles. Il a pris les meilleurs mashgichim possibles. Mais tout, il a une shmira top. Impossible qu'il y ait un grain de blé qui est rentré, une miette de blé qui est rentré dans l'usine. Très bien. Et il prépare, il amène des beaux carreaux de sucre comme ça. Il les amène au rabbi. Il dit, voilà, rabbi, je vous amène du sucre. Mon cher rabbi, il pourrait manger du sucre. D'accord ?
Pas le sucre.
D'accord ? Attends. Le Rabbi Rachab, il prend, il dit, bon, il prend la boîte de sucre, hein, il prend un carreau de sucre, il coupe en deux, il y a un grain de blé. Il dit, tu vois, et l'histoire s'arrête là. Ça veut dire, je sais pas.
Ah, oh, il a fait un tour de passe-passe. C'est pas possible.
Il a sorti un carreau de sucre de sa poche.
Ah, il a sorti.
Mais là, il a dit, quand je dis que je prends pas de sucre, je sais ce que je dis.
4 milliards d'investissements.
Non, ceci dit, attention, il y a beaucoup de. Le sucre, c'est cachère, il y a beaucoup de rabats qui prennent le sucre, mais chez nous, on ne prend pas le sucre. Parce que depuis que le Rabbi Rachab a dit ça, on ne prend pas de sucre.
Alors, ni radis, ni sucre.
n'en prend rien, ni radis, ni sucre, ni huile, ni...
Un conseil, ne faites pas inviter chez M. Asseline pendant les fêtes de Pessah.
C'est très bon, t'inquiète pas.
Il n'y a ni radis, ni sucre, déjà.
Bonne marocaine, c'est bien faire. Avec ce qu'elle a. Avec Masterchef, avec le prêtre que tu lui donnes, le clair que tu lui donnes, elle te fait...
Non, mais de préférence, avec le Shabbat.
Le?
Avec la graisse de l'animal.
Avec, oui.
Parce que c'est ce que faisaient mes grands-parents.
Même, je vais vous dire plus que ça, même le sel, on ne prend pas du sel fin.
Non, du gros sel.
On ne prend que du gros sel.
Ouais, exact.
Donc vous imaginez que c'est pas le même goût, hein. Non, parce que c'est pas la même chose. Ah oui, mais si vous comprenez, c'est jamais comme le sel fin. Je vous dis. C'est jamais comme le sel fin. C'est un goût différent.
C'est un pilon, je crois.
Oui, on prend avec un pilon, mais ça donne une poudre. C'est pas le même goût.
Moi, je
sais de quoi je vous parle. Et le.
J'ai connu ça chez ma grand-mère.
Il n'y a pas de gâteau le matin aussi à Pessah. Pas de gâteau, parce qu'il n'y a pas de sucre. T'as pas de sucre, t'as pas d'huile, t'as pas de fécule de pomme de terre. Tout ce qui est manufacturé. Donc il n'y a pas de gâteau. Donc c'est du jus d'orange. Attention, jus d'orange fait maison.
Oui, fait maison. Pas industriel, c'est clair.
Ah oui, jus d'orange fait maison, avec à la centrifugeuse. D'accord, centrifugeuse spéciale. Enfin bon, c'est Pessah, c'est spécial. Hein. C'est ça pourquoi, de qui on tient ça? Alors, celui qui a lancé ça chez Chabat, c'était le Rabbi Rachab. Comme il a dit, Mamie, c'est Pessah, alors je dis, bon, du coup, on a gardé ça.
Il doit y avoir une sont de la même neshama.
C'est écrit que le Harizal dit que celui qui a Nizhar, celui qui fait attention à Pessah, celui qui fait attention au maximum à Pessah, de pas avoir de chametz, Muftachlo shelo yecheta kol hashana, Kadosh Baruch Hu lui donne une assurance de le bloquer quand il fait d'averot toute l'année. Ça veut dire de l'empêcher. C'est pas qu'il fera pas d'averot, mais c'est qu'il aura plus de mal à faire d'averot toute l'année.
C'est une grosse variable.
Et c'est aussi au nom du Harizal qu'on dit que normalement, pour toutes les chumrot de toute l'année, on dit qu'il y a ce qu'on appelle les chumrot bêtes. Toute l'année, il y a des chumrot, des fois qu'on appelle bêtes. On dit bon, il y a des choses qui servent à rien, c'est de la bêtise. Le seul fait dans l'année dans lequel on dit qu'il n'y a aucune chumrot qui est bête, c'est bizarre.
Mais on voit quand même que les juifs, même s'ils sont traditionnels, c'est quelque chose qui vous attache d'importance à Pessah, même à fouiller, à faire.
Ah oui,
c'est bien sûr.
D'accord.
Quelque chose comme ça.
Bon, tout ça c'est pour développer quoi? Tout ça c'est pour développer la notion du prat. Et la notion de comment chacun il a son prat, comment chacun il a la mitzvah qui correspond à sa neshama. D'accord, il a la mitzvah qui correspond à sa neshama, et c'est une mitzvah, ça veut dire que, bien sûr, c'est toutes les mitzvahs qui me correspondent, mais il y a une mitzvah qui est un prat qui me correspond. Et donc, pour reprendre la notion qu'on a expliquée tout à l'heure, chelek goral, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné un chelek, il m'a donné une part dans les mitzvot, que moi je dois développer, il m'a donné un prat. Comment je sais quel chelek il m'a donné? Grâce à un goral, un facteur surnaturel. C'est-à-dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, pour t'avancer vers la piste où il veut que tu avances, il va te faire faire des choses que toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu as fait. Il va te faire prendre des pistes que toi-même tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Quel rapport avec moi? Ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi j'ai fait ça? Et finalement, c'est un goral, c'est un Kadosh Baruch Hu qui fait ça parce qu'il veut que tu arrives à une direction, il veut que tu arrives là-bas. Il veut que tu arrives à un résultat. Ça, c'est la notion de goral. D'accord? Alors, maintenant, tout ça, c'est pour arriver à quoi? Hein, il va parler d'argent. Alors. Alors, Vechen, pareil, on a encore, quelle heure il est? On va aller jusqu'à moins 10. Vechen, pareil. En koladorot shavim. De la même manière, donc on a dit que pas toutes les générations sont les mêmes, pas toutes les personnes sont les mêmes, pas toutes les familles sont les mêmes, et c'est ce qui fait justement la notion du prat. C'est les indicateurs que Kadosh Baruch Hu utilise pour nous amener vers un prat. Alors ça explique beaucoup de choses, d'accord? Avec ça, dans les mefarchim, il explique beaucoup la notion, comme par exemple que des fois, hein, t'as des personnes qui finissent avec des femmes, aucun rapport avec eux. T'as des gens qui ont des enfants, aucun rapport avec eux. Il se dit, mais pourquoi? Aucun rapport avec moi.
C'est-à-dire quoi? Aucun rapport avec eux.
Aucun rapport, c'est-à-dire aucun rapport avec sa nature. Et qu'après, il se dit, mais comment j'ai atterri avec ça? C'est pas possible, il n'y a rien à voir avec moi, ça. D'accord?
Ouais. Bon, il y a des moments où
d'accord.
Ça,
hein. Ouais, ouais. C'est pour les enfants ou pour la femme?
Pour la femme.
Attention, on répète tout. Et c'est quoi la notion? La notion, c'est ça. C'est que dans ça, c'est la notion de goral. C'est que ça, c'est quelque chose en vérité qu'on ne décide pas.
Chacun son tirage au
sort. Kadosh Baruch Hu, il s'arrange avec un facteur surnaturel pour te diriger vers une certaine piste pour que tu arrives à un certain résultat, à un certain prat auquel il voulait que tu arrives. Kikmo shevare à Adam, kol ever yeshlo et peula pratit ou miyuchedet. Il va vous donner un exemple très simple. Il dit, dans les membres d'un homme, chaque membre a sa fonction spécifique. A'ain lirot. L'œil sert à voir. Ve'aozen lishmoa. Les oreilles entendent. Chaque membre a une fonction spécifique. De la même manière, bien qu'on a 613 mitzvot, chaque mitzvah a une fonction spécifique. Chaque mitzvah a une lumière spécifique. Chaque mitzvah a une émanation particulière. Car bechol mitzvah, meir or prati ou meyuchat meor ensof baruchu. Dans chaque mitzvah va éclairer une lumière particulière de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et à nous de retrouver quelle mitzvah nous correspond. Av shekol nefesh miYisrael tzricha lavo begilgul lekayem kol tariag mitzvot. Maintenant, la Gemara Zakaï te dit, ne crois pas que quand un neshama elle descend en bas, on va dire, bon, il y a une neshama, elle doit faire que 20 mitzvot sur les 613. Une autre, elle doit faire 50 sur les 613. Non. Chaque neshama doit faire les 613 mitzvot. Seulement, c'est quoi le piège? Le piège, c'est qu'une fois qu'une neshama a déjà fait une mitzvah, on met un X sur la mitzvah. La mitzvah est déjà faite. C'est-à-dire qu'après, quand il va remonter en haut et qu'on va le refaire redescendre en bas en réincarnation, la mitzvah qu'il a déjà faite, celle-là, on la calcule pas.
Ah, donc, ils en ont beaucoup moins après.
Ben oui. Ça ne veut pas dire qu'il est exempté, il n'est pas exempté. Mais ça veut dire qu'il y a une notion qu'une fois qu'une personne a fait, par exemple, une personne, il a donné la tzedaka comme il faut. D'accord? Il monte en haut. On dit, bon, tzedaka t'a fait comme il faut, toutes les tzedaka, on coche. Tac, 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 x, x, x. Maintenant, on redescend. D'accord? On redescend maintenant, on va chercher les autres mitzvot. Il va faire aussi tzedaka. Mais naturellement, il va être dirigé vers d'autres mitzvot. Parce que ces mitzvot-là, c'est bon, c'est déjà fait. C'est-à-dire, chaque mitzvah, chaque neshama, pardon, au cours de sa vie, donc une vie peut être incluse de plusieurs, un ensemble de plusieurs gilgoulim, elle doit passer par les 613 mitzvot. Donc vous comprenez que nous, nos neshamot à nous, on est en train de cocher les dernières cases des dernières neshamot.
Pour toucher le loto.
D'accord ? Pour toucher le loto.
Trois fois.
D'accord ? Trois fois.
6 sur
40.
Bingo,
non. Bingo. Bingo, ça peut être beaucoup plus que trois fois. Trois fois, c'est l'idéal, mais ça peut être. Des fois, c'est. Trois fois, c'est l'idéal. Des fois, ça peut. On dit qu'il y a des neshamot, des fois, qui reviennent 10 fois, 20 fois. D'accord ? Et des fois, même, c'est. Bon, c'est compliqué. Des fois, ça revient dans les animaux. Des fois, ça revient. C'est compliqué, ça. D'accord ?
Dans les animaux ?
Ouais. Gilgulim, c'est très particulier, Gilgulim. Parce que des fois, on dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre une neshama plusieurs fois dans un homme et que ça n'a pas marché, hein, il dit, bon, on va essayer de la mettre dans les animaux.
Et peut-être dans l'animal.
On va essayer de la mettre dans un homme.
Et l'animal, il arrive à faire la...
C'est un bon signe. Non, c'est pas un bon signe. C'est un mauvais signe. Alors après, Akadosh Baruch Hu, il va s'arranger pour que le poisson dans lequel la neshama est rentrée, ce poisson, il va être mangé par un juge sur une table de Shabbat. Par exemple.
Oh là là, il faut faire attention à ce qu'on mange. Oh là là, j'ai mangé un autre juif.
C'est pour ça que il y a des calculs de Kadosh Baruch Hu qui sont très clairs.
Ah, je comprends que vous faites attention maintenant à Pessah et tout. Ce que vous mangez.
Voilà. Donc, V'af, j'ai collé l'effet. Je reprends un V'af. Vous avez un V'af? V'af, je ne sais pas où c'est. Je suis allé un peu vite parce que j'ai expliqué beaucoup à l'oral. On prend la ligne qui commence chez Col. Chez Col, donc environ 8 lignes avant la fin de la page. On finira avec ça. Hop, chez Kol Nefesh Mi'Israël, Sri Chalav Obik Gilgul, bien que chaque Neshama du peuple juif doit forcément venir en Gilgul, les Kayam Kol Tariag Mitzot. Chacun de nous doit accomplir toutes les 613 Mitzot au cours de ces Gilgulim. Mikol Makom, quand même, Lo Nitzrecha et la Lea Adafa. Mais néanmoins, chaque personne a besoin, Lea Adafa, ça veut dire il aura une affinité particulière avec une certaine Mitzvah. Et donc, du coup, il aura Zehirut, c'est une mitzvah sur laquelle il aura plus de Zehirut, ça veut dire plus de, il fera plus attention, ou Zrizut, une mitzvah sur laquelle on lui demandera d'être plus empressé, Zrizut Yetera, Veyeter Se'et, Veyeter As, donc une Zrizut supplémentaire, beaucoup plus profonde, Kfula Umkrupelet, doublée et redoublée, les Mala Mizirut Sher Amitzot, encore plus que la manière comment il doit s'intégrer dans les autres mitzvot. Donc avec ça, ça nous rassure en vérité, c'est-à-dire que quand on voit qu'on s'investit dans une mitzvah plus que d'autres, on pourrait se dire, attends, quand je monte en haut, Akadosh Baruch Hu va dire, ah, t'as fait que cette mitzvah. Et pourquoi je t'ai pas investi de la même manière dans les autres? Pas du tout. Tu dis, c'est normal. C'est bien. Tu dois faire toutes les mitzvot. Mais le fait que, naturellement, par le cours des choses, tu t'investis plus dans une mitzvah que dans une autre, ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu, il t'a dirigé vers la mitzvah qui correspond à ton neshama. Avec ça, on explique aussi ce que la Gemara a dit, que en Adam yodea bema mistaker. Qu'un homme, il sait pas de quoi il gagnera sa vie. Il peut faire toutes les études qu'il veut. D'accord? Il sait pas de quoi il gagnera sa vie. C'est justement pour ça. Parce que lui, il essaye de se diriger. Mais peut-être que Kadosh Baruch Hu lui dit, attends, ton prat, il est là-bas. Donc il va s'arranger pour le diriger vers son prat. D'accord? Et comme ça, on peut avoir des gens qui bifurent complètement. Ah ouais. Qui font des trucs qui n'ont rien à voir avec leurs études. D'accord?
C'est vrai.
Mais il est itron orazah prat, il n'est pas pratiot. Et non, miprinata vedat moussak. Et là, les mala. Miprinata dat. Le mot de la fin, c'est quoi? Et là, on finira avec Pourim. Le mot de la fin, c'est qu'il dit le mot de la fin, c'est qu'il dit Ve'iné itrona orazé. Donc, cette spécificité, ça veut dire le fait que dans certaines mitzvot, on a dit qu'on a, on a plus de punch, on a plus de puissance, et on sent que ça décolle mieux. Il dit que ça, en vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Par exemple, ce Rav, qui avait une affinité particulière pour les titites. Le Rabbi Rachab, qui avait une affinité particulière, on l'a dit, pour la mitzvah de Pessah. Lui-même, il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il est attiré par Pessah. Pourquoi ? Parce que ça, c'est du goral. Voilà, c'est ça où vous en arrivez. Et c'est pour ça qu'on dit « Ashreinu mataf chelkenu umanayim goralenu ». Tu as chelkenu, c'est quoi chelkenu ? Chelkenu, c'est la part qu'on essaye de chercher dans notre vie. J'essaye de prendre une piste, j'essaye de prendre une direction, j'essaye de prendre une part. C'est chelkenu. Goralenu, c'est quoi goralenu ? C'est Akadosh Baruch Hu qui s'arrange pour te faire prendre une piste que toi-même, tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi tu as pris cette piste. Il dit clairement, il dit « Eino bibrinat ta'am vedat musag ». C'est pas quelque chose qui pourra s'expliquer. Que tu pourras dire « Oui, j'ai fait un parcours, je peux t'expliquer mon parcours ».
C'est dans quoi, Ashreinu ? C'est dans Tehilim, ça ? Non.
Ashreinu matafra kenu, c'est ouais, dans c'est la tefila du matin.
Oui, d'accord. Quel endroit ? Oui, d'accord.
Alors, ça, c'est quelque chose, ça veut dire que finalement, c'est magnifique, il explique ici. C'est pour ça qu'on il dit que le parcours qui va être entrepris pour arriver jusqu'à ton prat, d'accord ? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne le lisent pas. Mais c'est dans tous les sites d'Orive. Hein. Le parcours que tu vas entreprendre pour arriver à ta mission est un parcours que tu ne pourras même pas expliquer. C'est-à-dire qu'après, quand tu auras 70 ans, 80 ans, tu essaieras de te dire, mais attends, comment je suis arrivé là ? Et tu vas essayer de reprendre le parcours. Tu vas dire, mais comment je suis arrivé à ce prat ? Eh bien, le prat que tu vas rechercher, qui correspond à ta neshama, en général, on ne sait même pas comment on y arrive. C'est quelque chose qui est le malam itam vedat. Shikar ala bemarshav alefan avid barer, medugmat le mata ou prinat agoral mamash, c'est mamash l'équivalent du goral. D'accord ? C'est ici, voilà. Tu vois, shrein ou matafrekenu en goral, ici. Dans tous les stories, mais ça. D'accord ? Ashrein ou, en général, dans les synagogues, il n'y a que les vieux qui disent ça.
C'est parce que le matin, moi je commence à en douce. Hein.
Il vit la tira, patachéno, bamar et tout. Il vient une demi-heure plus tôt. Non, moi je les lis, attention. Je
fais un petit peu en abrégé le début. Okay.
D'accord.
On loupe.
Ça viendra, vous rattachez. Et donc.
Dès que t'as les lunettes, c'est bon.
Non, je suis petit filote avant, mais très rapide. Voilà. Mais après,
Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que finalement, Akadosh Baruch Hu, finalement, c'est ça la notion de Goral. Exactement comme dans un tirage au sort. Est-ce que quand on a tiré au sort, on est tombé sur une personne ? Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi c'est tombé sur lui ? On sait que si c'est tombé sur lui, c'est que Kadosh Baruch Hu voulait que ça tombe sur lui. Mais est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi Dieu voulait que ça tombe sur lui ? Non, on n'est pas capable d'expliquer. Parce que la notion de Goral, c'est justement quelque chose qui n'est pas fait pour être expliqué. C'est plus fort que ce qui peut être expliqué. Ça, c'est la notion de Goral. C'est ça même la définition de Goral. Qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu d'intervenir, on sait que c'est logique, on sait que lui, c'est ce qu'il fait, mais on ne sait pas pourquoi. Nous, on ne comprend pas. Mais la Gemara Zakhali dit, c'est exactement la même piste qu'Akadosh Baruch Hu prend quand il veut amener une personne vers un prat. Quand il veut amener une personne vers un prat, il va lui-même se retrouver à prendre des pistes dans la vie. Et les pistes, c'est tout. C'est les gens qu'on va fréquenter, c'est les écoles qu'on va fréquenter, c'est tout. De A jusqu'à Z. Des choses que nous-mêmes, quand on fait le bilan, on n'est même pas capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? On n'est pas capable d'expliquer. Pourquoi ? Ça, c'est la notion de Goral. La notion de Goral, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui te dirige progressivement vers le prat qui correspond à ta neshama. Le rapport avec Purim est très simple, c'est que Purim, c'est également la notion de Purim est également la notion de Goral, d'accord ? Également la notion de pour Saint Tirage au sort. Et on dit que la force qu'on explique avec ça, c'est qu'on dit que Aman, lorsqu'il a tiré au sort, lui-même il savait pas ce qu'il voulait. Lui-même il était presque guidé par une force céleste qui était très forte. Lui-même, il ne savait pas ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a eu un srout, que Bnei Banav Shel Aman, l'âme de Torah Bnei Brak. Maral raconte que des petits-enfants de Aman, on a eu des grands maîtres à Bnei Brak. D'accord ? C'est des différents avis. Oui ? Il y a différents avis. Qui étaient ces grands maîtres ? Bon, d'accord, il y a différents avis. Je ne me rappelle plus des noms, mais des grandes pointures. Pourquoi on lui a donné ce mérite-là à Aman ? Comment ça c'est qu'il a eu ce mérite-là à Aman ? Très simple. Parce qu'on sait qu'Aman, en vérité, il a été quelque part manipulé par en haut. Il y a eu un goral comme ça, parce qu'on a dit c'est quoi le goral ? Il a tiré au sort, il est tombé sur le 14 Adar. C'est lui qui a tiré au sort. C'est-à-dire que le fait qu'il a tiré au sort, ça veut dire que quelque part il a été kaviachol, si on peut dire, manipulé par Akadosh Baruch Hu. Il était manipulé parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que l'âme Israël se réveille. Et c'est pour ça. Alors on l'a puni parce qu'il a eu quand même son libre arbitre, etc., etc. Je veux pas rentrer dans cette parenthèse. Mais en tout cas, on voit que Kadosh Baruch Hu, il est conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, bon, ta récompense, c'est que tes petits-enfants, comme grâce à toi, les bénis Israël en fait Tshuva, tes petits-enfants deviendront des grands rabbanim, les grands rabbanim à Bnei Brak. Ça, c'est la récompense de Haman. De la même manière, nous aussi, comment nous, on a fait Tshuva? On dit que c'est expliqué que tout le miracle de Pourim, quand on analyse le miracle de Pourim, on voit que c'est un miracle qui est très bizarre. Pourquoi? Parce que tous les autres miracles, comme le miracle de Hanouka, le miracle de Pessah, etc., c'est des miracles qu'on peut quantifier de manière, qu'on peut expliquer. C'est-à-dire, on dit, voilà, on était en Égypte, on était bloqué, Dieu nous a sauvés, on était à Hanouka. C'est quoi Hanouka? On avait une armée de 180 000 personnes contre nous, on a eu 5 personnes, ils les ont gagnées. Donc le miracle est clair. Mais comme c'est une notion que le rabbi répète plusieurs fois, et c'est une notion, même le Mefarchim s'arrête beaucoup sur ça. Pourim, c'est une fête qui est très bizarre, parce que quand on analyse Pourim, quand on se raconte l'histoire de Pourim, finalement c'est une histoire diplomatique. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? On avait un problème, on avait un ministre qui nous en voulait, on avait un Le Pen qui voulait nous casser les pieds, on a réussi à infiltrer la reine, à infiltrer une personne, on a réussi à mettre un espion à la place de la reine. La reine, elle a attendu le bon moment, était cachée, Esther, c'est Milchan, Esther s'est cachée, elle a attendu le bon moment, elle est venue voir le roi a dit ok, c'est fini. Quand on voit l'histoire comme ça, ça nous paraît très... C'est peut-être des histoires qui peuvent nous arriver tous les jours. Et bien, les Farchim s'arrêtent dessus. Ils disent que pourquoi le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas mentionné dans la Megillah? Parce que, juste, le miracle de Pourim est un miracle qui s'est passé en mode goral. En mode goral, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un miracle, mais on n'est pas capable d'expliquer comment il y a eu un miracle. En quoi c'est un miracle? Quand on essaie d'expliquer en quoi c'est un miracle, c'est très difficile d'expliquer en quoi c'est un miracle. En quoi il y a eu un miracle ici? C'est pas des choses comme ça peut nous arriver tous les jours. Bon, bien sûr que c'est un miracle, mais c'est pas un grand miracle. À tel point que ça peut un fait naturel, exactement. C'est une question diplomatique. D'accord.
Mon proviseur là qui marche.
D'accord, c'est facile. D'accord. Pourim, c'est facile. C'est un miracle facile. On dit que justement, c'est quoi la notion de Pourim? La notion de Pourim, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous met justement. La notion de goral, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, le plus grand miracle, il est mis de manière qu'après, lorsqu'on analyse, et on se dit, mais c'était quoi le miracle finalement? T'es bloqué devant un problème, et tu crois que c'est le plus grand problème, après, dès qu'il y a la solution, tu te dis, mais finalement, c'était quoi le problème? Là, ça veut dire que la solution était tellement forte que c'était une solution qui était presque surnaturelle. Et c'est pour ça qu'on dit que Kippour, on dit que Yom HaKippourim, le jour de Yom Kippour, on l'appelle Yom HaKippourim, c'est un jour qui est comme Pourim. C'est-à-dire que la fête la plus forte de l'année en vérité, c'est quoi? C'est Pourim. Et que même Yom Kippour, dans lequel il y avait le Goral aussi, c'est seulement comme Pourim. Yom HaKippourim. C'est un jour qui est comme Pourim. Pourtant, Pourim, ça nous a pas l'air une fête particulièrement... Bon, il n'y a rien de particulier, a priori. Oui, exactement. Pourquoi? Encore une fois. Parce que la force qu'il y a dans Pourim, c'est que Pourim, c'est une fête, justement, le fait qu'on n'arrive pas à voir où est le miracle, c'est justement ce qui nous prouve que le miracle était tellement fort qu'il s'est habillé entièrement dans les règles de la nature. Comme j'ai dit au Fabrigan Shabbat, j'ai dit que la Gemara a dit... Le Sénifloque de l'autre Levado. C'est écrit que y a des miracles que Kadosh Baruch Hu fait tout seul. Alors le Mefarchim pose la question, il dit, mais ça veut dire quoi hein? La Gemara d'abord pose la question, après le Mefarchim s'arrête dessus. La Gemara a dit, mais ça veut dire quoi des miracles que Dieu fait tout seul? À quoi sert de faire un miracle tout seul? La Gemara a dit, c'est quoi un miracle que Dieu fait tout seul? C'est un miracle que celui qui a été bénéficiaire du miracle ne s'est pas rendu compte qu'il a eu ce miracle. Comme on peut avoir plein d'exemples des miracles qui sont passés, une personne a eu un miracle, s'est même pas rendu compte qu'il a eu un miracle. D'accord? Et ça, la Gemara a dit que ça, c'est le plus grand miracle. Parce que ça, c'est un miracle qu'on n'a pas eu besoin de briser les lois de la nature. Le miracle, il s'est caché dans la nature à tel point que si tu demandes où était le miracle, tu dis il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. C'est comme dans le tirage au sort. Quand on va tirer au sort, on va tomber sur un. Tu vas dire t'as vu, il y a eu un miracle, tu étais choisi. Il n'y a qu'un miracle. On a tiré, c'est tombé sur moi, c'est tout, qu'est-ce que tu veux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer le miracle. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est expliqué c'est le Morazaken. Que quand Akadosh Baruch Hu nous dirige vers notre piste, c'est quelque chose qui est en mode goral, en mode pourim, si on peut le dire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il va faire d'une manière que tu ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle à Pourim également, on a une misère de boire. Et de boire jusqu'à quand? Ad de l'oyada, jusqu'à à tel point qu'on arrive que quelque part on met le cerveau de côté. À tel point qu'on n'arrive plus à différencier la différence entre Arour Aman et Baruch Mordechai. Pourquoi on veut mettre le cerveau de côté? Encore une fois.
Pas avec l'intellect.
Pour arriver au Goral. Parce que dès qu'on est en mode intellect, on dit attends, moi je préfère ça. Mais dès que tu mets l'intellect de côté et que tu passes direct en mode goral, là, Kadosh Baruch Hu t'amène direct à ton prêtre. C'est pour ça que justement à Pourim, on dit les Chaim, pour mettre le sechel de côté, pour oublier le cerveau un petit peu, pour arrêter de réfléchir. Et là, pac, on tombe direct, droit dans le mille, directement dans le prat qui nous concerne. Voilà comment on peut comprendre le tfila, Ashreinu matofrel kenu umanein goraleinu, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, que déjà Akadosh Baruch Hu nous montre notre part. Et que, mais comment Akadosh Baruch Hu nous montre notre part? En général, c'est d'une manière qu'on ne comprend même pas comment on est arrivé là. Ça, c'est la notion de goral. Voilà comment Akadosh Baruch Hu nous amène à notre prat. Et avec ça, on peut comprendre la notion du miracle de Purim, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il nous aime faire un miracle, mais qui est tellement fort qu'on n'est même pas capable d'expliquer.
Ça veut dire qu'à Purim, finalement, le peuple juif n'a jamais été aussi près, peut-être même de, disons, préserve, de disparaître. C'est-à-dire que finalement, s'il n'y avait pas eu cet échouvard, on dit grand miracle. C'est-à-dire que vraiment, c'était un...
Ah, c'est un miracle énorme.
Oui, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas eu, ne serait-ce qu'un juif qui a été touché dans cette...
Concrètement, période. Non, il n'y a personne qui a été touché.
C'est ça, alors qu'on a eu d'autres périodes où il y a eu des juifs qui ont été touchés. Sûr, c'est-à-dire que finalement... là, ça peut paraître comme un fait naturel, mais en même temps, on peut sentir qu'à travers ça, qui pourrait paraître un premier ministre qui dit « je vais détruire, tuer tous les juifs de tout le royaume », ça peut paraître assez
huluberlu,
quoi. Tu dis « est-ce que c'est réalisable ?»
Justement, ça va, on ne comprend pas. C'est comment ça. C'est possible que tu as un ministre qui vient et qui dit « on va tuer tous les juifs du monde ?»
Du royaume. Voilà, c'est un peu ça.
Ça va, on ne comprend pas comment ça peut arriver.
Non,
mais la raison, c'est ma question qui pose. Merci de cette question.
C'est qu'il pouvait pas, lui, il pouvait pas y arriver, Marchemo. Il a dit, je vais, par rapport à mes conquêtes, je vais détruire les juifs qui sont dans mon, par rapport à mes conquêtes. Mais là, il s'est dit, dans un seul jour, un seul instant,
on va détruire tout le monde.
Je vais détruire tous les juifs du royaume.
C'est presque. On n'a jamais eu ça.
C'est presque irréalisable.
On a déjà eu dans la guerre de Hanouka, par exemple. On a déjà eu Hanouka, ils ont dit, bon, on veut conquérir la terre d'Israël.
Voilà.
On veut conquérir. Bon.
Mais là, ça paraît inimaginable. En une journée seulement,
on va détruire tous les juifs. On retrouve la notion de Goral, encore une fois. La notion qui dépasse l'entendement. On comprend même pas où était le décret, comment ça a pu passer dans la tête de Rachel Roche, comment ça peut être réalisable et comment on a pu faire ce décret. Mais Bepoel, concrètement, la Gemara a dit...
C'est-à-dire que finalement, il était potentiellement réalisable, ça veut dire.
Bien sûr, en mode goral, ça veut dire quelque chose qui était finalement, qui dépasse l'entendement. Un petit peu comme le Shoah, on comprend même pas comment ça peut arriver. Jusqu'aujourd'hui, on comprend pas comment ça peut arriver. Ça, c'est du goral, ça s'appelle du goral. C'est des choses que Akadosh Baruch Hu, il fait, qu'on comprend même pas comment ça peut arriver. Mais c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu, il savait ce qu'il faisait. Maintenant, je referme la parenthèse, et donc, je voulais vous dire, il y a une Gemara qui dit à propos de Purim, c'est écrit à la fin de la Megillah, dans le 9e pérec de la Megillah, c'est écrit « Ki mouve ki blou ayoudim ». C'est écrit que les Juifs, ils ont accompli et ils ont accepté. Ils ont accompli et ils ont accepté, donc tout ce que Mordechai a dit. Alors la Gemara dit, ça veut dire quoi? Ils ont accompli et ils ont accepté. La Gemara dit, il faut comprendre comme ça. « Ki mou ma shiki blou ». Ils ont réussi à accomplir ce qu'ils avaient accepté. Ça veut dire quoi? De quoi on parle? Quand on a reçu la Torah, on a accepté la Torah, on a reçu la Torah. Mais on n'a jamais réussi à la mettre en pratique. On a dû attendre des générations. Et c'est sur quelle génération qu'on peut dire qu'ils ont réussi à mettre en pratique comme il faut la Torah? La première génération qui a réussi à mettre en pratique comme il faut la Torah, dit la Gemara, c'est la génération de ceux qui sont passés par Purim. C'est-à-dire que Purim, en vérité, c'est une fête qui est très très forte. C'est une fête dans laquelle le peuple d'Israël est arrivé à un niveau qu'en vérité, c'est là qu'on a réussi à mettre en pratique ce qu'on a reçu à Matan Torah. Comme on l'a jamais fait dans aucune génération. Et pourtant, vous voyez, nous, quand on voit la fête de Purim, ça nous a l'air un petit peu... Bon, ça va arriver, ça va passer. On a du mal à cerner, on a même du mal à retrouver ce sens dans Purim. On se dit, mais quel rapport avec Purim, ce que tu me racontes là? Il n'y a pas de rapport avec Purim. C'est la Gemara Megillah qui dit ça. Le rapport, encore une fois, est là. C'est que Purim, ça nous montre la notion que c'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est des choses qui sont en mode goral. Et c'est pour ça que quand le Ham Israël a réussi à faire une Messirut Nefesh en mode goral, à montrer qu'on met de côté notre cerveau, et on va servir à Kadosh Baruch Hu en mode goral, à Kadosh Baruch Hu dit, moi aussi je me comportais comme ça avec vous. Voilà pourquoi en vérité, quand on réfléchit, Purim est la fête la plus forte de l'année. La plus forte. Encore plus forte que Yom Kippour.
C'est surprenant.
D'accord? C'est surprenant. Parce que le miracle est tellement fort qu'il a été camouflé dans la nature. C'est ce qu'on a expliqué ici, c'est que c'est à Kadosh Baruch Hu en personne qui nous a goral, qui nous a dirigé vers le Prat, vers ce qu'il attendait de nous. Voilà, ça c'est la notion de Purim, voilà ce qu'on peut tenir pour Purim.
Je comprends bien, pour le Mishneh, il va y avoir une tombola ou une autre.